Salut, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Initiative Podcast. Je suis Sofiane, avec moi Critique Masqué.
Bonjour à tous.
Bonjour Critique. Et Maxime.
Salut à tous.
Comment ça va les amis?
Ça va super bien.
C'est la forme.
On a tous vu Dark Phoenix.
Ouais.
Dernier film de super-héros en date dans les salles.
Ouais.
Ouais.
Blockbuster de super-héros.
Ouais. Notre film de l'été. Hein.
Ouais. Avec Spider-Man, mais voilà, ça va être les
non.
deux.
Non, même pas. Non, X-Men.
X-Men, X-Men avant tout.
Ah, ça faisait 12 ans que je l'attendais.
Ouais, moi ça faisait depuis le 3 en fait. Je voulais voir une belle version du Dark Phoenix, quoi, depuis la stand. Est-ce que j'ai été conquis ou pas, vous le saurez.
On le saura.
Voilà.
Parlons de la production de cette petite bête.
Depuis un moment là.
Ouais.
Il a été annoncé juste avant la sortie de celui d'avant, d'Apocalypse.
Juste après, ouais.
Avant, moi j'avais lu.
Ah, moi j'ai lu genre 3 semaines après.
Ouais. Avant, il me semble.
Il a été validé avant. Ouais.
Il a été annoncé après.
C'est ça.
Ouais.
Ce film est écrit et réalisé par Simon Kinberg.
Mec dont on a déjà parlé, dont on va déjà reparler.
Là, c'est sa première réalisation.
Premier film.
Il a fait un épisode de la série, le reboot de la quatrième dimension aussi.
Ah ouais, voilà,
juste avant.
Ok.
Qui, à mon avis, l'a tourné après ça, parce que celui-là était fini.
Oui,
le final a été terminé en même temps que Deadpool 2, qui est sorti l'année dernière. Donc, il y a eu de la post-prod, quoi.
Donc, ce film va parler de la saga Phoenix, au cas où vous ne l'avez pas remarqué. Donc, grande saga dans les comics.
Considéré comme le meilleur arc X-Men par tous les vélétistes experts, tout ça.
Et qui avait déjà été abordé dans X-Men 3, The Last Stand.
Exactement.
Avec le scénario déjà.
Exactement.
Simon Kinberg.
Écrit par la même personne, qui a aussi été scénariste de Days of Future Past et Apocalypse, donc les deux derniers X-Men.
Il est sur la saga depuis un moment maintenant.
Ouais, il a produit pas mal aussi. Mm-hmm. Il a produit First Class, Deadpool aussi.
Oui, ouais. Il a produit Deadpool.
Il est dans l'entourage de Bryan Singer depuis longtemps en tant que producteur aussi.
Ouais. Mm. C'est vrai qu'on avait dit qu'on n'en parlait plus.
Ah bah je vais en parler un peu, parce que pour moi il y a du tacle aussi.
Il y a du tacle, ouais. Ouais, donc à noter que si vous aimez pas ce que les X-Men sont actuellement, en gros vous pouvez très bien pointer votre doigt vers ce mec-là.
Mm. Oui.
Parce que les trois derniers X-Men, c'est lui.
Après,
il a la production du scénario, donc il a une influence totale sur.
Ouais, mais je trouve que pour le coup, on en parlera, mais celui-là, je trouve qu'il est pas vraiment dans le ton de ce qui était précédemment de la saga, et lui, il avoue qu'il a changé le ton après avoir vu Logan. Il s'est dit, tiens, en fait, il y a peut-être un moyen de faire un truc un peu plus intimiste, porter plus sur les persos que sur des enjeux gargantuesques, tout ça. Et c'est ce qui l'a motivé à aller dans cette direction pour celui-là.
Parce qu'il a aussi parlé de mea culpa par rapport à The Last Stand, justement, sur le personnage de Dark Phoenix, avec ce film, une façon de refaire le truc plus...
Ouais, fidèle, quoi.
Ouais, plus fidèle, voilà.
Ouais, enfin, en vrai.
Faut dire quand même que les deux meilleurs X-Men, films X-Men, c'est le 2 et First Class, on va le dire.
Moi, j'aime bien le 1, mais oui, lui...
Voilà,
ouais.
On va dire voilà, dans ces trois-là.
C'est clair.
Et il y a des gens qui diraient Days of Future Past aussi.
Oui, il y en a beaucoup. Je suis très surpris. Enfin, en tout cas, il y en a qui l'aiment beaucoup.
Voilà. Mais bon, à noter quand même que voilà, de ces deux-là, lui, il n'en a écrit aucun. Quoi.
C'est clair.
Il n'était pas avec Singer depuis le début. Quoi.
Oui, oui.
Ouais. Alors qu'elle avait dit qu'elle ne reviendrait jamais, Jennifer Lawrence, elle a fait la petite erreur de promettre à Simon Kinberg qu'elle reviendrait pour lui.
Avoir promis de revenir.
Ouais. Non, en fait, elle a dit qu'elle voulait éviter un truc qui s'appelle le Chuck Cunningham Syndrome, qui vient de la série Happy Days, qui est un personnage qui a disparu à l'épisode 9 sans crier gare de manière.
Il est allé en haut, il n'est jamais revenu.
Ouais, exactement.
Et au collège, je ne sais plus exactement.
Ouais, elle voulait éviter de rentrer dans cette liste de personnages donc, qui disparaissent en expliquant avec une ligne de dialogue. Donc elle est revenue.
Donc ça, c'est sa raison officielle.
Voilà.
La raison officieuse, c'est qu'elle a dit à Simon Kinberg, je le ferai pour toi. Et ensuite, elle a dit aussi, je regrette avoir dit ça, j'aurais jamais dû dire ça.
Et ça se
voit. Et parlons-en, tiens, de son maquillage, on en avait déjà parlé, je crois, dans le podcast.
C'est abusé.
Là, c'est de plus en plus minimaliste. Hein. Plus ça avance, plus c'est minimaliste. Oui, il y a de moins en moins de maquillage. C'est plus le même bleu qu'avant. Il n'y a plus aucune texture, il n'y a plus rien, c'est juste du maquillage.
Là, on a l'impression qu'elle s'est basée déjeuner de crème. Quoi.
Ouais.
Et elle fait son maximum pour être le plus de fois possible normal. Quoi.
Ouais.
Même les cheveux, ils sont vraiment pas travaillés. Quoi. Enfin, là, il y a zéro taf sur la gueule de Mystique.
Olivia Munn, qui jouait Psylocke, elle aurait dû revenir. Mais elle était dans Predator, donc elle n'est pas revenue. Oh là là. Parce qu'on la voyait dans le film précédent partir, il y avait un plan sur elle, vraiment genre tintin.
Elle
devient Et le choix entre la peste et le choléra, elle a choisi un truc bien crade, mais.
Ouais, je l'ai pas vu Predator, donc je pense.
Oh, c'est rigolo, ouais, c'est de la merde, mais c'est rigolo. Ouais.
C'est ça.
J'aime bien le réalisateur, donc.
Ouais, bah il avait les pions, les. Enfin, il a pas tout fait, quoi.
Non. Ok.
Donc c'est rigolo une partie, le reste c'est de la merde.
Ouais, j'imagine qu'elle aurait été à Genosha avec Eric.
Ah oui, c'est fort probable. Genre, mon avis, ça aurait été le mec. Ah bah c'est ça, ouais, t'as raison, en fait ça aurait été ce rôle-là.
Ouais, je pense.
J'ai l'impression qu'on la coupe à la meuf qui a le couteau là. Enfin,
ouais. Ouais. C'est l'aînée, elle s'appelle, je crois.
Ouais. Elle était dans les films précédents.
Il me semble qu'elle était dans Apocalypse au moins.
Bon.
Ouais, dans ou dans le, ou dans Days of Future Past.
Mais d'où? À la fin?
Non, non, elle faisait partie de ceux qui ralliaient Magneto justement.
Mais ça, c'est dans Last Stand qu'il y a des gens qui rallient Magneto.
Bah oui.
Je confonds.
Ouais, peut-être alors.
Ouais, pas si celle qui arrive à savoir où sont les mutants.
Ouais, ça, mais c'était dans Last Stand en fait, et du coup, c'est pas la même.
Ouais, c'était dans Last Stand.
Ah oui, celle qui jouait dans Les Sopranos. Non,
alors. Qu'elle ait les pouvoirs ou elle classe les mutants.
Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à faire la fille avec les cheveux rasés dans beaucoup de films, et donc ils sont un peu faciles à confondre. Avec les tatouages et les piercings et les cheveux rasés, c'est le look X-Men mutant des personnages secondaires qu'on voit.
Un peu dark.
Ouais, voilà.
Elle manquait clairement de, enfin pour le coup de contenance dans le film. Enfin,
ouais, ouais, son rôle, juste, histoire, c'est beaucoup c'est de mutants comme ça dans les films.
Ouais, ouais, c'est un peu dommage. Mais...
Donc le tournage s'est fini en octobre 2017.
À Montréal. Enfin, à Paris à la fin. On spoil pas, mais c'est Paris, les gars. Je vous promets, c'est Paris.
D'ailleurs, ça doit faire partie des reshoots, donc vraiment les dernières scènes tournées, quoi.
Ah, putain, cette séquence de Paris à Montréal a été magnifique. Le Paris années 70 de 90 de Montréal, j'adore.
Donc la sortie était originellement prévue pour
novembre
2018, puis repoussée en février 2019, puis encore repoussée à ce mois-ci.
Avril, puis ensuite.
On a un peu pensé pendant longtemps que ce film il allait finir en direct ou DVD. Là.
Ouais, avec New Mutants, là, ouais. Les deux, ouais. C'était un peu l'énigme en plus avec le rachat de Disney, tout
les
ça.
Les deux projets sombres, du coup, et entre le rachat. Ouais. C'est les nouveaux films en fait, de la Fox qui sortent sous l'égide de Disney. Ouais. Quoi.
Il n'y a pas de logo Disney au début.
Non, là c'est encore la Fox, avec le X qui tient un peu. Le O, non, il y a le X.
Le X de Fox.
Ouais. Il y a un truc.
Il y a juste Mickey qui apparaît à la fin, qui fait. Qui pointe du doigt et fait.
Je t'ai racheté. T'es à moi. Après, dans les castes, il y avait des. Donc là, c'est Jessica Chastain qui joue un personnage, on va pas encore révéler exactement.
Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire sur elle, mais c'est plus tard qu'on va y revenir.
Parce
que sur elle,
ça devait être.
Chastain.
Angelina Jolie à la base.
Oui, c'est ça.
Ils avaient pensé.
Ouais, ils avaient pensé à Angelina Jolie qui a dû leur dire non.
Ouais, parce que j'ai dû comprendre aussi.
Elle, maintenant, c'est plus une réalisatrice qui choisit ses projets maintenant,
plus
on va le dire.
Productrice aussi.
Ouais.
Productrice aussi, exactement.
Je sais pas trop ce que Chastain est venu foutre là, mais on en parlera.
Oui, parce que.
Enfin, alors, sais, un peu, quand je vois le film, je sais ce qu'il a potentiellement fait venir et où ce qu'elle a rajouté, mais j'avoue que c'est quand même surprenant. Quoi.
Ouais, c'est. Je sais pas, peut-être qu'une envie de jouer une méchante. C'est souvent les acteurs dans leur carrière, les actrices.
Ils tentent plein de trucs aussi parce qu'ils
se disent allez, je vais tenter, j'ai envie de jouer un méchant. À la musique. On a ce très cher Hans Zimmer
qui a dit qu'il en ferait plus.
Il a dit qu'il en ferait plus après Batman contre Superman, Donos Saucis. Il a dit j'en ferai plus. Mais Simon Kinberg l'a convaincu de revenir pour ce film. Et j'aimerais savoir. Allez, t'aimes bien les pitchs. Vas-y, fais-moi le pitch de Kinberg pour avoir Hans Zimmer.
Je pense que c'est un Jedi en fait. Il a passé sa main devant Hans Zimmer et il a dit tu feras la musique de mon film. Après, il est allé voir Jennifer Lawrence, il a dit tu feras Mystique de mon film.
Tu as des problèmes d'argent.
Voilà, et ça marche. Écoute, franchement, j'ai aucune idée. J'ai écouté son score en venant carrément pour vraiment me plonger dans le podcast. Ouais. C'est pompier, mais toute la séquence spatiale, je trouve que ça fonctionne.
Il y a des moments où la musique elle marche dans le film, mais en dehors du film.
Ouais, voilà, ça. Voilà, je l'ai écouté, il y avait, je pense que sur les 25 minutes, 30 minutes que j'ai écouté, il y a 3 minutes qui m'ont un peu pris, et le reste, j'ai l'impression que limite.
Je la trouve soporifique.
Mais elle est à l'image du film un peu, elle est.
Exactement. Et elle est envahissante quand tu regardes le film.
Ouais. C'est-à-dire elle est très présente, ça.
Ouais, ça fait un. J'ai l'impression de dire ça souvent, ça fait un peu soap opéra au niveau musique. C'est que c'est très dramatique.
Moi, je me sens dans
le film, le veut, enfin, il est clairement.
Ouais, et j'étais un peu. Je me suis...
Ouais, le film est soap, hein, de toute façon.
Et j'avais oublié que. Je me rappelle que Zimmer avait signé, et j'avais complètement oublié avec le temps. Et c'est en sortant du film que je me suis dit, qu'est-ce qui a fait cette musique que j'ai pas aimée? Je vois en Zimmer, je fais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'arrivais pas trop à comprendre.
Moi, je me suis endormi pendant le film, je tiens à vous le dire. Okay. J'avais ma femme avec moi, donc elle m'a résumé un peu ce que j'ai loupé. J'ai loupé vers le climax de fin, quoi. Genre, ce qui se passe dans le train, tout ça.
Donc là, c'est littéralement l'instant, comme dirait ma femme, vu qu'elle t'a.
Ouais, non, mais voilà, je suis honnête. Le film a réussi à m'endormir à 15h. Ouais,
t'étais pas censé être celui qui allait le défendre.
J'ai des arguments quand même. Hein,
mais... Ok.
Mais bon,
ils sont on est dans la merde.
Il y en a quelques-uns pour le défendre, mais je serais pas gentil.
Zimmer, il reviendra prochainement dans Wonder Woman 2.
Ah, avec Jackie XL aussi, là. Et ils font toujours leur duo, ou...
J'ai pas vu les 1983 d'avant. Je sais pas, je vais être perdu, mon ami. Je vais rien comprendre à ce qui s'est passé.
Si, je pense que ça va, tu vas réussir à attraper les wagons. Je te rassure.
Ce film, c'est le premier film sans aucune référence à Wolverine.
Ouais,
de la saga X-Men. Il est à la retraite. Bah, pas dans ce...
Ah, il est pas mort dans celui-là, ouais.
Non, il est pas mort dans celui-là.
Compliqué. Non.
Mais l'acteur est à la retraite.
Oui, oui.
Enfin, non, il fait le tour du monde et il fait le biggest show on earth, là, je sais plus trop quoi. Greatest Showman, c'est ça. Et c'est le film X-Men le moins bien reçu par la critique de tous les temps.
Ouais, et à qui on dit, enfin, le moins bon score.
Et qui fait le moins bon démarrage des films X-Men aussi.
Ça m'étonne un peu parce qu'il n'est pas détestable, ce film.
Ah non, il est loin d'être détestable.
Il est chiant. Je vais dire maintenant, il est chiant.
Il est lambda, quoi. Enfin, je veux dire, il est pas lambda. Moi, je trouve qu'il y a des trucs à prendre, mais je veux dire, il est sorti en tout cas dans l'anonymat le plus total. Genre, ça a pas du tout fait l'événement.
Son contexte de sortie en plus, juste après Avengers. Enfin, je pense que la comparaison de fin de saga est.
Non, mais le rachat Disney, enfin, le fait qu'en fait, ça, il est mort-né le film. En fait.
Oui.
Pourtant, déjà, un cast pareil, t'as quand même les trois originaux. Ils sont tous bankable à fond.
Ouais, mais c'était.
T'as Chastain. Et t'as Sophie Turner qui vient de sortir de Game of Thrones, qui est au top de ce qu'elle peut, voilà. Et personne n'en parle.
Bah ouais, mais tout le monde s'en fout. Mais parce qu'on sait que c'est... En fait, on sait que c'est une fin qui n'est pas forcément la fin... Enfin, tu sais, il n'y a pas eu un espèce de montée en puissance vers l'aboutissement de cette saga, quoi. C'est...
Ouais, le chant du cygne, tu vois.
Bah, tu vois, ils auraient pas sorti l'épisode, tout le monde s'en serait battu les fesses pareil, quoi.
On va en parler un peu sans spoiler, comme on fait d'habitude.
Ouais.
Bah vas-y. Allez.
Écoute, moi, j'ai vraiment bien aimé le début. Je trouve que c'est un. Il y a des choses en fait que je m'attendais pas à voir dans un X-Men et qu'au final, je me rends compte que j'avais envie de les voir dans un X-Men, notamment toute la séquence de sauvetage, qui sont des choses où d'un coup, les X-Men font partie de l'univers, de la société. Enfin, tu vois, ce côté super héroïque des X-Men qu'on n'avait pas vraiment vu avant.
Dans le premier.
Voilà, mais en plus,
c'est
un pont Catimini en plus dans le premier, tu vois. Dans le premier, ils font ça officieusement, quoi. Tu vois. Là, le fait que d'un coup, ça devienne. Il y a ce côté, waouh, des héros, quoi.
Ouais, c'est l'équipe de super-héros du monde, quoi.
Et ça m'a plu. Parce
ça, c'est intéressant d'explorer.
En plus, ça pourra plus jamais être refait. Maintenant que c'est dans les. Enfin, maintenant que ça appartient à Disney, ils pourront plus nous faire le côté genre. Ah, y'a trop bien les X-Men. Ouais, enfin, avant les X-Men, il y avait les Avengers. Bon, le monde, c'est plus le même, quoi. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Toute la partie de Jean Grey, au départ, j'aime bien. Je trouve le traitement. M'a plu, le fait de vraiment s'attacher à ce personnage, enfin de se coller à ce personnage et essayer de suivre son parcours. Et en fait, je me rends compte en y réfléchissant que l'introduction d'un antagoniste autre, pour moi, rend le film vraiment chiant et fait que la dernière partie, elle est inintéressante. Mais la première heure, je trouve qu'il y avait vraiment des trucs à prendre.
Okay.
En plus d'avoir tout un discours méta que je vais vous expliquer un peu plus tard, exposer un peu plus tard.
Mm-hmm. Maxime.
Ouais, moi je vais un peu joindre l'avis général que c'est quand même assez mou, enfin c'est pas mou mais c'est pas très intéressant.
C'est appliqué.
Non.
Appliqué c'est un compliment.
C'est pas mal réalisé, c'est pas mal joué, c'est pas, enfin c'est une espèce de truc un peu plat, un peu avec 2-3 envies de temps en temps de tenter des trucs comme tu dis sur la première partie où il y a des trucs qui m'ont aussi un peu plu, mais le final, comme tu disais aussi avant le podcast, on en discutait un peu, c'est il n'y a pas de scène marquante, il n'y a rien d'extraordinaire, rien de spectaculaire, rien qui te donne envie de t'emballer pour le film.
En fait, l'action dessert presque le film. En fait.
Pour un sujet comme Dark Phoenix, où tu es censé jouer à fond sur les émotions, les persos qui sont censés avoir le plus d'émotions, c'est ceux par qui elles passent le moins. Je trouve que ça soit Jean Grey ou Scott, qui sont censés être quand même les deux persos au milieu de tout ça, qui ont une relation qui est super intime et qui devrait justement les lier. C'est mou et c'est pas intéressant. Le personnage de Jessica Chastain, on y reviendra, mais...
Ouais.
Il m'intéresse pas, il est pas. Enfin, on sait même pas qui c'est, il y a rien, il est pas exploré. En fait, on pourrait presque s'en passer et trouver une autre façon de gérer.
C'est le personnage qui vient apporter sa petite dose de morale judéo-chrétienne et de rédemption au truc, quoi.
Enfin, je veux dire, plus, avec ses espèces,
il y a pas besoin,
on va pas spoiler maintenant, mais.
Bon, c'est ça, mais il y a pas besoin.
Mais,
pas besoin
non, plutôt mitigé. Après, il est moins mauvais que Apocalypse, pour moi, qui m'avait clairement déçu en sortie de salle. Pour moi, c'est du même acabit, mais un peu mieux parce que il y a ce côté dramatique qui, quand même, essaye de tenter autre chose et qui m'a un peu plu avec 2-3 messages sympas, mais sinon.
Dans Apocalypse, ils ont mis Olivia Munn en bikini dans Auschwitz, et rien que pour ça, ça mérite de sortir du lot. Ouais, moi, c'est le plus gros péché du film, c'est que c'est chiant. Et je l'ai dit déjà juste avant, et c'est vraiment un film où pendant tout le film, je me disais, bon, ça va démarrer à un moment. il va se passer un truc à un moment. Ah, on est dans la dernière scène du film à un moment. Et, pendant presque tout le film, je me suis dit ça. Et Apocalypse avait plein de défauts, mais au moins il se passait un peu de trucs. Bon, des trucs un peu énervants, des trucs un peu chiants, mais il se passait des trucs, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'il se passait rien pendant presque tout le film. Ensuite, bon, après, c'est pas le pire des X-Men. Hein. Je trouve quand même que The Last Stand, le troisième, est le pire des films X-Men.
Ah, pour moi, le pire, c'est Apocalypse.
Ouais, ou... Ouais, je trouve qu'ils sont un peu tous dans ce camp-là, les trois, pour moi, ils sont ensemble, quoi. Ils sont ensemble en bas. C'est dommage, ouais, parce que, bon, ils ont fait Apocalypse, ils ont fait des conneries, on se dirait, ah, peut-être ils vont rebondir, donc ils se sont décidés, on va, comme tu dis, à se focaliser sur un personnage. Là, c'est Jean, en l'occurrence. Sauf que Jean, bah, on l'avait déjà fait dans le 3, mal. Et au final, est-ce qu'on peut bien le faire, au final, ce personnage? Est-ce qu'on peut vraiment lui rendre justice à ce personnage?
Il n'est pas attaché à son personnage avec les films d'avant.
Non, il n'y a pas eu ça. Il y a eu juste un moment où elle était un peu cool, badass, qui marche en volant dans Apocalypse, mais en dehors de ça, elle n'a rien fait dans Apocalypse. Les scènes qu'on voit au début du film, qui racontent toute son histoire, ça aurait dû être dans le film précédent, on est un peu d'accord, non? Ça aurait pas été
un peu comme une Raven où avait eu, par exemple...
Voilà, tu vois que... Tu comprennes un peu plus sa backstory déjà dans le film d'avant, plutôt que d'un coup on te dise « Ah, au fait, elle est importante. »
Oui, bien sûr. Non, mais, de toute façon, si on cherche la cohérence dans cette espèce de trilogie depuis de Future Past ou même quadrilogie avec First Class, c'est pas là qu'on va trouver des trucs à dire de positif. C'est vraiment été torché par des mecs qui sont pas concertés.
Ah, il y a des erreurs dès la première scène du film, hein, franchement.
Puis même, le vieillissement des personnages, on pourra revenir là-dessus aussi. Ça n'a plus aucune cohérence et ils ont pris le parti de plus faire attention à ça.
Dans 8 ans, Fassbender est censé ressembler à Ian McKellen.
Là, dans le film, il a 62 ans, je pense. Enfin, c'est pas une seconde.
Mais au moins, lui, des tempes grises, quoi.
Non, mais bon, ils s'en foutent. Bon, ça, à la limite, voilà, ils ont fait le parti pris de s'en foutre.
C'est bizarre, c'est vraiment genre, on s'en fout, quoi.
Bah ouais, mais à la fois, tu vois, c'est, pour moi, ce serait de faire des espèces de galipettes pour contourner un problème qui, finalement, n'est pas vraiment, quoi. Enfin, tu vois, on s'en fout que le personnage, il ait 10 ans de plus, 10 ans de moins.
Enfin, pour moi, c'est pas ça aide pas à s'attacher à cette saga et à se dire, ouais, il y a un truc qui tient et putain, ces persos ils sont en danger, quoi.
Ouais, pourtant, l'ouverture, je la trouve intéressante.
Non, enfin, le début du film est prenant en tout cas.
Voilà, il y a un vrai côté. Les traumas fonctionnent, quoi. Enfin, tu vois, bon, là, je suis d'accord, il est amené de manière pas du tout subtile. Enfin, c'est vraiment que le balance à la gueule pour te dire, au fait, c'est là-dessus que ça va tourner. Mais bon, je trouve que la scène fonctionne. C'est quand même pas. Je vais pas dire que c'est osé, mais c'est. On est quand même sur quelque chose d'un peu dur, quoi.
Non, ouais. Je trouve juste dommage qu'ils aient pas donné plus de constance au personnage de Jean dans le film précédent.
Ouais, bien sûr.
Un autre truc aussi, bon, le phénix, comment ça a été traité, ça ressemble plus aux comics, c'est pas exactement comme les comics.
Ouais.
Ça ressemble
plus. Il y a quand même des efforts de Kinberg, tu sens, de raccrocher quelques liens.
Comparé à la stand,
je compare juste à la stand. La bribe de départ, elle est comme le comics. Le côté, il y a une onde spatiale et qui la contamine, tout ça, oui. Après, le traitement de fond avec ce côté quelqu'un qui la manipule, machin, c'est totalement à côté de la plaque pour moi dans ce film. Là où dans le comic, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a vraiment une. Enfin, elle joue justement sur.
Je voulais parler de la stand, là, en l'occurrence.
Ah, vas-y.
Je parlais pas trop du comics. C'était plus la stand. Elle était juste là pour suivre Magneto pendant tout le film, hein, c'est ça. Elle était garde du corps de Magneto et à la fin elle fait le truc et elle se fait tuer par son mec qui est pas son mec. Et voilà, c'est tout. Elle faisait rien pendant tout le film. Là, c'est vraiment un film qui est centré sur ce personnage à 200%. Là, c'est elle le personnage principal, c'est elle qu'on voit plus avec peut-être Charles en deuxième, mais tu vois parce que Charles est toujours là. Mais donc ça, oui, c'est déjà mieux fait que The Last Stand. The Last Stand pour moi restera toujours le pire à ce niveau-là. Mais
la stand osait plus de trucs.
Mais dans j'allais dire 6 mois, mais dans 3 mois, je vais avoir oublié les 3 quarts du film. Quoi. C'est un truc, c'est triste.
Il est très oubliable.
Ouais, c'est un film avec des personnages qui se balancent des lasers à la gueule et qui se poussent des éclairs, des trucs qu'on a l'habitude maintenant. Mais bon, voilà, il y a deux, trois petites scènes d'action. Ouais, ça se regarde.
Enfin, pour moi, c'est vraiment les scènes d'action qui plombent le film. Quoi. Enfin, ouais. Je trouve que autant le parcours émotionnel du perso et tout, à la limite, je peux, enfin, tu vois, ça peut m'intéresser, quoi. Mais dès qu'ils essaient de les faire se bagarrer entre eux, je trouvais ça inutile, enfin, j'ai envie de dire. C'est pas du tout... Là, on sent le côté, faut en mettre parce que c'est un blockbuster de super-héros et qu'il faut qu'ils se battent, quoi. Alors que, tu vois, genre, tout le climax de fin, par exemple, t'es vraiment... Je me suis endormi. Non, mais vraiment, s'endormir dans un film de super-héros au climax de fin, c'est quand même que ça en dit quelque chose sur le niveau de l'intensité de l'action et le... Tu vois, du fait que ça se peut être procurer un peu d'adrénaline, quoi.
Enfin, puis l'application dans les persos, tout simplement, je pense, hein, parce que l'histoire t'intéresse pas, donc tu t'en fous, quoi.
Bah, c'est qu'à des réglés avant, en fait, aussi, d'une certaine manière. Mais, ouais. Bah ouais, je sais pas si
on passe à la partie spoiler.
Bah oui, j'allais le lire. Allez, on passe au film.
Ladies and gentlemen of NASA, this is Charles Xavier. Help is on the way.
We're doing space missions now. Cool.
Nous sommes en 1972. Jean Grey tue ses parents en voiture et se fait accueillir par Charles Xavier.
Ouais.
Première erreur du film, dès la première scène, Days of Future Past commence en 1973, Charles marche et n'a pas d'école, l'école n'est pas ouverte, ouais. Et il récupère une mutante un an avant. C'est écrit par le même mec, qui devrait quand même juste regarder dans quelle date se passe le film d'avant.
Moi j'avais lu 75 moi, mais je me plante.
Ah j'ai 72 moi.
Moi j'ai lu 75 au début. Ouais. Non mais tu dois avoir raison.
On sait jamais, attends.
Mais c'est pas très grave, hein. Enfin, comme je te dis...
Je veux pas dire de conneries, je veux pas l'insulter alors que...
Mais après, si c'est planté, 72, c'est bête.
Surtout que c'est vraiment des trucs... C'est de pas merde, simple à corriger, quoi. Enfin,
Surtout, on s'en fout, enfin, c'est tellement pas...
Ah non, c'est en 75, autant pour moi.
Enfin, j'avais lu 75. Hein.
Putain, c'est parce que c'est un pote qui me l'a dit, qui m'a dit, ouais, il y a un truc avec la date au début, et c'est en 72, et je suis, ok.
Ouais, non, bah, bon, tu vois, ça m'étonnait aussi que le mec, il soit aussi... Enfin,
non, mais autant pour moi.
Autant laxiste, quoi. Mais en effet, après... sur les âges et tout ça, il y a quand même, quoi qu'il arrive, un peu un blème.
Oui,
tu vois. Enfin, je sais pas quel âge il est supposé avoir Charles Xavier dans le film, mais s'il est supposé avoir 60 ans, moi j'y crois pas une seule seconde. C'est-à-dire que Jeff McAvoy. Ouais, voilà, mais Jeff McAvoy, pour moi, déjà, tu me fais à peine gober qu'il a 40 balais. Quoi,
oui,
donc tu vois, quand je le vois, quand ils essaient de nous vendre le délire de les vieux, c'est Magneto et Charles, ceux d'en dessous, c'est Mystique et Hank, et ceux d'en dessous, c'est genre Jean Grey et Cyclope, t'as envie de dire, enfin déjà les quatre d'en dessous, ils ont l'impression qu'ils ont le même âge.
Ouais.
Et Charles, il est quasiment de l'âge des autres aussi, donc tu fais. Voilà, mais bon.
Ouais, parce que là, Hank, il doit avoir 40-50 balais. Hein,
il a... Ouais, mais tu vois, il en fait 30. Enfin, il en fait 30 à 50 péter, quoi, vraiment.
Même pas 30.
Ouais, même pas. Enfin, après, c'est parce qu'il a l'air vraiment juvénile.
Nicolas Hoult est très jeune. Ouais.
Mais je trouve que cette première scène, au-delà de ça, bon, voilà, d'une gamine qui provoque la mort de ses parents, c'est quand même pas anodin. Après, c'est pas parce que c'est dur que ça fonctionne mieux, mais bon, voilà, ça au moins, ça a le mérite de pas se cacher derrière un côté « Ah non, en fait, c'est un accident. » Bah oui, c'est un accident, mais ça reste quand même elle qui a endormi sa mère au volant.
Combien d'accidents de voiture au ralenti on doit avoir dans notre vie ?
Oh putain, ouais. Et filmé à l'intérieur avec le verre qui tourne.
Le verre qui tourne.
Ouais, ouais.
Tout le temps la même chose. Hein.
Ouais. Ça, on va en voir un paquet.
C'est le truc que je me suis dit.
Ah bah si, c'est... Très, le mec a pas beaucoup d'idées de réel. Bah, de toute façon, pour moi, l'aveu d'échec en termes de réel, c'est Quicksilver. Quoi. C'est l'heure de dire ouais, en fait, ce perso, je veux pas avoir de meilleure idée que le mec qui est venu avant, donc on va le virer du film très vite.
Après, intéressant et qu'on en discutera, mais il prend le contre-pied là où c'était des scènes plutôt humoristiques, là c'est une scène plutôt dramatique.
Ouais.
Il l'utilise dans ce sens-là, mais après, il y a rien de. Enfin, il l'utilise 3 secondes et puis après, on voit plus du film comme d'habitude. Quoi.
Ouais, c'est ça, oui. Aveu d'échec pour moi, aussi bien en termes d'écriture que de mise en scène.
Ouais. Ce très cher Charles bloque la mémoire de Jean, faisant croire que son père est mort.
Alors,
et donc Charles continue d'affirmer son statut de gros con patriarcal.
Est-ce qu'on peut quand même.
Comme il nous l'a habitué dans les films précédents, tu vois. Dans tous les films précédents, on a toujours un moment où Charles il fait un truc con, à part ceux avec Patrick Stewart. Dans ceux avec Patrick Stewart,
c'est le 3
dans le 3, voilà. Dans le 3, mais
ça
sinon.
Reste plutôt quelqu'un de droit.
Ouais. Dans les films depuis que c'est McAvoy, c'est vraiment dans tous les films. Souvent c'était avec Raven qui faisait vraiment des conneries, mais
c'est un parti pris d'explorer sa part sombre dans ses nouveaux films, hein, de toute façon.
Mais là on est d'accord que Charles c'est Bryan Singer, enfin dans ce film. Pour moi c'est genre clairement, il y a quand même une phrase de Hank qu'il regarde droit dans les yeux qui dit on n'aurait pas. Déjà, assume tes conneries, mais surtout, tu voulais qu'on les protège du monde extérieur, alors qu'en fait, il fallait les protéger de toi.
Ah.
Et franchement,
ouais, j'ai pensé à la pédophilie, mais j'ai même pas pensé à ça.
Et là, je me suis dit, genre, waouh, attends, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Parce que c'est tellement appuyé en mise en scène, en mode genre, je dis ça, mais en fait,
c'est vachement appuyé.
Je parle de quelqu'un d'autre, quoi, à ce moment-là, que je me suis dit, ah ouais, et pour moi, il y a clairement un traitement en sous-texte de se dire, Charles, sur la première partie du film, de se dire, en fait, c'est Singer, et je vous raconte l'histoire d'un connard qui s'est fait passer pour le chevalier blanc, alors qu'en fait, non, c'était vraiment un enculé, quoi.
Si vous saviez pas, pour Singer, je vous conseille de retourner à nos épisodes des X-Men précédents,
où on discute un petit peu.
On en parle pas mal de tout ça.
Mais donc, ouais, là-dessus, ouais, j'ai été surpris que ça aille là-dessus. Après, c'est deux phrases balancées.
Mais c'est pas impossible du tout. Hein,
mais il y a un truc, je pense
Kinberg que... Kinberg est proche de ce mec-là et de la saga X-Men. Il a son regard aussi sur le truc. Et
ouais, pour moi, c'est pas anodin. C'est pas anodin.
Moi, après, je l'avais pas saisi, moi, mais tu vois, ça me paraît pas incohérent.
Bah, c'est cette phrase de Hank quand ils boivent la bouteille, et qu'il lui dit balance dans la gueule, et c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il allait dire Brian.
Moi, je sais pas du tout quelle est la relation entre Kinberg et Singer, donc c'est pour ça que j'irai pas m'aventurer à dire des trucs comme ça, parce que si ça se trouve, ils sont encore potes, si ça se trouve, ils le protègent, enfin, j'en sais rien.
Ouais, ouais. Donc, bah, après, moi, j'aime bien essayer de me voir un peu comment les mecs arrivent à diffuser des choses.
Ouais, bien sûr, faut lire entre les lignes, tout à fait. Mais là, pour le coup, j'ai rien lu de spécial sur Kilmer, je crois qu'ils évitent vraiment le sujet. Quoi.
Ah bah non, mais c'est évident. Ils en parlent
pas. Ça se trouve, ils ont des contrats déjà, en rapport avec ça. Donc,
parce que c'est lui qui a fini Bohemian Rhapsody ?
Non, justement, il s'est fait virer en cours de route et c'est celui qui a fait Rocketman qui a repris le projet.
A repris, d'accord.
Enfin bref.
On passe en 1992, donc 9 ans après Apocalypse et 8 ans avant le premier X-Men.
Donc Apocalypse n'a jamais existé, enfin, on a l'impression que c'est comme s'il n'y avait pas eu lieu. Quoi.
Ah, si. Bah, il y a eu des gigas sur Terre, on n'en entend pas parler du tout. Enfin,
oui, ouais, non, ça, oui. Non, mais je parle du fait que les X-Men puissent travailler avec les gens, c'est grâce à Apocalypse. Hein.
Oui, oui, sûrement.
Ah oui, oui, oui.
Oui, mais enfin,
et bien, que Eric, il a une île avec ça aussi, c'est grâce à Apocalypse.
Ouais, ouais. Enfin, je trouve qu'on n'a pas ce côté traumatique. Enfin, en tout cas, on ne sait pas que ce qui s'est passé à Apocalypse a vraiment affecté la planète.
C'est
jamais évoqué.
Pourquoi ils iraient parler de ce film?
Bon, mais tu sais, tu montres une ville en ruine, moi je suis content.
Donc il y a des astronautes qui sont perdus dans l'espace. Donc les X-Men, ils vont les chercher avec un avion de jet et sans aucun équipement. Ils font même un moment, il y a. Comment il s'appelle, Nightcrawler,
il gaffe
un truc et
ils lui mettent du scotch
et il a rien pour respirer et vas-y allez hop c'est parti.
Il lui accroche le casque d'une combinaison spatiale avec du Chatterton dans l'espace.
Chatterton dans l'espace et il le balance comme ça. Il y a plein de petites incohérences.
Ouais, là, le spatial,
ça, pour le coup, c'est très comics dans le sens où on part en vaisseau. Enfin, tu les vois vraiment comme ils partent en vaisseau. En
j'ai un pote qui était pas content. Hein, genre, ouais, il me dit normalement on congèle dans l'espace, machin. Je lui dis
ouais.
C'est comme dans Guardians où tu les vois congeler dans Guardians.
Ouais. Oui, mais il y a même une scène où je sais pas pourquoi Jean Grey a le droit d'être sans combi, sans rien. Il y a du truc qui est trouvé de partout et tout. Bon, après, moi j'ai bien aimé cette séquence. Je trouve que là, pour le coup, c'est un vrai moment d'héroïsme. J'aime bien le traitement. Je trouve que la montée en puissance vers le décollage et tout ça, c'est un truc qui fonctionne. Même les images d'archives et tout.
J'aime bien qu'ils travaillent ensemble, les X-Men ensemble.
Bon, voilà.
Tu les vois utiliser chacun leur pouvoir d'une manière différente. Il y a Storm qui congèle le truc.
D'ailleurs, Storm, c'est quoi le principe? Elle contrôle le temps ou juste elle a le droit de faire sortir des glaçons de ses mains?
Alors, normalement, elle contrôle l'oxygène, techniquement, c'est ça. Hein, elle contrôle l'oxygène pour faire des trucs avec.
Dans l'espace,
je sais pas, ouais. Bon, il y a Quicksilver qui récupère les gens.
C'est ta gueule, c'est magique, à chaque truc. Voilà.
Ils ont changé un peu l'effet sur Nightcrawler, ou c'est peut-être parce que la scène est tournée un peu au ralenti ou de façon un peu.
Il laisse plus de fumée derrière.
Il y a plus d'espèces de.
C'est carte noire maintenant.
Ouais, mais bon, je trouve qu'au moins c'est un bon début pour introduire
l'intro te met bien dedans, hein, honnêtement.
Parlons d'un truc quand même, c'est les pyjamas qu'ils portent.
Ils sont fidèles aux comics, quoi, pour le coup là. Oh, le côté, les couleurs et tout, c'est fidèle aux premiers comics.
Quand même.
C'est pas dingue.
Tu regardes les comics des années 90, ils étaient pas
habillés. Ah non, je parle
en fait du premier comics.
Non, moi je parle des années 90. Et en plus, je sais pas quoi.
Mais c'est sûr qu'ils auraient dû avoir les tenues.
C'est une tenue de combat, donc logiquement ils devraient avoir un petit peu de Kevlar en dessous et au-dessus ils mettent leur couleur s'ils veulent. Mais là c'est vraiment juste un pyjama quoi.
On dirait un wingsuit quoi.
Mais vraiment quoi, on dirait.
Ce qui est dommage, c'est qu'en plus ils nous ont teasé des costumes à la fin du précédent et qu'on est dans l'époque où ça aurait été judicieux de les habiller.
C'était cool les costumes à la fin du précédent. Ouais, Cyclope il avait son vrai costume des comics et tout, c'était franchement.
Ça aurait été cool de les mettre. C'est sûr que, pardon. Ça aurait été cool de les mettre.
Storm avec ses trucs en dessous des bras là, tu sais, c'est ce qui fait tout le personnage dans les comics. Qu'elle a une sorte de cap en dessous des bras. Là, quand
c'est pour ça que je pense au wingsuit.
Non, mais c'est vrai que c'est moi je trouve ça dommage. Après, ils paraît comme d'hab, quoi. Ils ont essayé de référencer les tout premiers comics.
C'est quand la dernière fois qu'on a vu les X-Men travailler ensemble pour autre chose que taper Magneto ou un truc dans le genre
C'est là où je te dis que j'ai bien aimé ça parce que c'est jamais. Genre, les X-Men en mode héroïque, machin.
Non, c'est plus toujours une école qu'autre chose. Hein.
Ouais, et puis collaboration avec le président des États-Unis qui les appelle sur un téléphone particulier. Enfin, c'est
techniquement, quand ils ont tué Apocalypse, ils ont tous travaillé ensemble. Ils balançaient tous leur laser en même temps.
Non, mais même au début, même contre Magneto et tout, ou même des œuvres de Future Past, quand il y a tous les mutants qui s'allient pour éviter de se faire avoir par les Sentinelles, c'est des moments où ils s'allient aussi, tu vois. Mais c'est vrai que d'avoir cette équipe-là qui... En fait, là, vraiment, pour avoir lu les premières arches des comics, ça m'a rappelé ce côté-là. Genre, on est un groupe de super-héros, des gamins, qu'on envoie sauver des gens, quoi.
Et Mystique, elle a un peu piqué le rôle de Cyclops dans les comics. Clairement. Elle leur dit, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et t'as Cyclops qui est là, genre, merde. Encore une fois, je me fais baiser, quoi.
Cyclops, c'est incroyable.
Le pauvre.
Avec dans son pistolet.
Dans tous les films, il se fait... Oui, il a quand même un laser, le truc qui est construit dans l'avion pour pouvoir balancer ses lasers. Ça, c'est quand même cool.
C'est une bonne idée.
Ça, j'aime bien. Non, franchement, ouais.
C'est super comic book, quoi.
Qu'est-ce que tu vas combattre avec ça, quoi. Enfin, tu te dis, faut vraiment qu'il y ait une armée qui t'attaque et piou, quoi.
Bon.
Mais c'est le seul truc cool qu'il fait du film.
Hein. Ah oui, après il fait plus rien. Oui, je crois qu'il doit brûler une autre merde, mais. Ouais.
Je crois qu'il y a un moment où il envoie ses lasers sur quelqu'un et que ça le fait voler super loin et c'est une scène un peu genre, waouh, cool.
Ouais,
mais... il en a quelques-unes à la fin de la scène.
Ouais,
mais il y a Charles qui passe bien pour un connard.
Comment il s'appelle cet acteur?
Ty Sheridan.
Ty Sheridan. Ready Player One.
Ouais, c'est ça.
Il a toujours des lunettes.
Mais c'est. Enfin, pas ouf cet acteur avec les lunettes, il faut passer aucune, enfin avec les lunettes qu'il a, du coup on voit pas ses
yeux. Une grosse bouche, comme j'avais dit une fois, je crois. J'avais dit, ça marche pas, il faut avoir une grosse mâchoire et une bouche fine.
Il fait pas passer d'émotion, c'est dommage.
Comme Batman, tu vois.
Il est figé avec sa bouche à moitié ouverte. Ouais. Un peu gênant.
Ouais. Et donc je disais, Charles passe vraiment pour un connard. Sinon, c'est
ah bah oui.
Putain, là, il met vraiment tout le monde.
Oui, il dit ouais, on y va. En gros, il veut sa médaille.
Ouais. Ouais, ouais.
Non, mais ce Charles est vraiment.
Oui, il m'a plu. Le début de Charles, je me suis dit, putain, ils osent vraiment en faire un gros bâtard. Et
je me suis dit qu'il allait se sacrifier à la fin.
Ça aurait été plus intéressant.
En gros, il décide, bon, allez, j'ai trop merdé, c'est à moi de corriger le truc.
Plus fort que la fin qu'il a.
Hein. Ah bah largement, ça aurait été beaucoup mieux.
On y reviendra, parce que c'est vrai qu'après, il va en France, il se met à faire du vin.
au café des vieux amis.
Ensuite, il rejoint...
Il prend une franchise de Nicolas.
Non, mais il rejoint l'Académie Starfleet, ensuite. Et puis le reste est histoire.
Pas mal.
Mais c'est vrai, quoi, il est en France et tout.
Oui,
il y a Jean-Luc Picard, putain, mais merde, quoi.
Au café des vieux amis.
Mais oui.
Je ne retiens que ça.
Bon, Jean, elle absorbe tout le truc orange dans l'espace,
ouais,
qui est sûrement.
C'est
sûrement un nuage de la famille de Colossus, hein, c'est vrai, on n'a pas parlé. Mais... Comment il s'appelle Galactus Colossus,
bien sûr.
C'est le mutant.
Son petit frère. Hein. Ah. De planète en planète.
Ouais, voilà, quoi. Elle bouffe toute l'énergie du Schmidlick spatial. Ouais.
Donc elle survit.
Oui. Et elle pète la forme.
Ouais, et donc ils vont tous dans la forêt canadienne.
Ouais. Attends là, la forêt canadienne.
Ouais. J'étais content. C'est peut-être la dernière. Non, il y a Young Mutants là.
Ouais,
Young Mutants.
Oui. Bon, ça se passe entièrement.
Ça se passe dans un bunker. Dans la forêt canadienne.
Dans la forêt canadienne. Il y a Dazzler qui est là.
Oui. Petit caméo.
Ouais, j'étais là, je m'y attendais pas, quoi. En train de faire des... Elle, son pouvoir, c'est de transformer le son en image. Donc c'est littéralement une sorte
c'est
de...
Combat dansé, la petite...
C'est une parade Disney, en fait. Elle
est là, c'est plutôt classe aussi. Hein. Moi, j'aime bien le fait que les mutants se tapent une bonne teuf.
Ouais.
Et ils débarquent par portail, machin, ils se bourrent la gueule.
Vous savez qui aurait pu jouer Dazzler pendant des années? Il y a eu des rumeurs.
Rihanna, non?
Non, Taylor Swift.
Ah, bien sûr.
Qui ressemble à Dazzler dans les comics.
En effet. Et quand même, bon, il fait une teuf, mais ils sont surveillés par des caméras de surveillance.
Oui, des caméras thermiques.
Thermiques. Parce qu'on déconne pas.
C'est fais gaffe.
Hein. Ouais. Il y a Hank sur sa béquille qui continue.
Ouais, donc elle fait un peu tout péter. Hein.
Oui.
Ouais, elle fait la première grosse crise qui va se répéter à chaque fois dans le film. Elle va refaire
Parce que c'est une femme, elle a des problèmes d'émotion, mais en fait, le fait qu'elle ait des émotions, c'est bien.
Oui, bah il y a la même redite que dans...
Ah, mais c'est exactement, mais oui, c'est...
Bah, là, on peut peut-être parler de Jessica Chastain qui débarque dans l'histoire et ce qui débarque un peu dans le...
Non, c'est pas tout de suite encore.
Ah bon non, non, mais c'est surtout parce que ce type de petite introduction féministe, parce qu'il y a aussi la fameuse phrase de Raven
qui dit. Elle va voir les chiens et elle se transforme.
Non, je parle de
X-Woman.
Ouais, les X-Woman, tout ça, tu sens qu'il y a une espèce de.
La réplique, elle pourrait être super cool, mais dans le contexte de ce moment-là, je trouve qu'elle passe.
Mais non, il y a une musique dépressive pendant tout le film, il n'y a aucune blague qui passe.
Non, c'est ça.
De temps en temps, des blagues, mais t'as une sorte d'ambiance sombre dans le film tout le temps.
Ouais.
Donc ça passe pas.
Parce que la vanne, en plus, elle est hyper juste, quoi. Genre, c'est X-Men, c'est Xavier, et c'est un homme, donc c'est X-Men, tu vois.
Ouais, mais Logan, ça a de l'humour, c'est brut, c'est des gens qui se gueulent dessus, tu vois. Il y a un truc quand même.
Ouais, il n'y a pas d'humour dans Logan, très peu, mais.
Ah si, quand il se gueule avec Charles Xavier et tout. La petite, elle est drôle, elle fait des trucs drôles.
Il a essayé de calquer ce ton-là un peu, au-delà de ce qu'il a annoncé. C'est pour ça qu'il a le cul entre deux chaises. Mais donc cette phrase pour moi c'est un peu la marque Jessica Chastain est dans le film on va balancer des pics féministes non mais c'est pas après je trouve ça hyper mal amené Ça mérite de le faire, mais c'est quand même pompier. Enfin, pas du tout.
Ouais. Les gens rient dans le cinéma.
Bon, celle-là, ça va encore.
En soi, elle est juste, mais c'est juste qu'elle est pas ouf à ce moment-là. Dans ce contexte-là.
Ouais. Non, mais ça fait partie de ces élans féministes qui ont mérite de faire réagir les non-féministes en mode genre je me sens agressé par votre vanne.
Ah, oui.
Voilà, tellement.
Je trouve qu'elle fait très années 90, moi. C'est un peu une phrase féministe années 90, justement, donc qui se place dans le contexte années 90, un peu comme Captain Marvel, encore une fois. On place tout ça dans le début du féminisme moderne, machin. À l'époque où le féminisme c'était représenté par Ali McBeal, quoi. Donc c'était quand même pas. c'était quand même pas top. C'est vrai que dans le contexte, Jennifer Lawrence qui a l'air elle en a rien à foutre d'être Jennifer Lawrence. On le disait déjà dans les films d'avant, mais.
Mais elle a bien fait de revenir parce que comme elle offre moins, elle offre une fin à son perso, quoi. Tu vois. Enfin... Non, mais enfin, en effet, revenir pour ça.
Non, mais je l'ai vu dans des films où elle est.
Il y avait une mort aussi dans X3 avec Scott qui mourait dans la stand. Enfin, genre, c'est pas des morts marquantes, mais elles étaient là déjà. Enfin, c'est un peu la même chose. C'est pas ouf.
Non, c'est pas ouf, mais bon, au moins elle est revenue pour dire, enfin, elle a une fin, quoi.
Ouais.
Mais rien de dingue, je suis d'accord.
Jean apprend que son père est en vie, parce qu'elle entend une voix qui dit Jean, je sais pas trop quoi.
Papa. Papa, elle.
Bah ouais, elle l'entend, quoi.
Mais bon. Donc elle va lui rendre visite dans sa ville. Le père est resté au même endroit, dans la même maison, il s'est pas remarié.
Pour moi, c'est Homer Simpson qui aurait perdu Marge.
Traumatisé.
Le père.
Ok.
Non, mais tu sais, c'est genre le cliché du père qui n'a pas bougé, quoi.
Ouais.
Limite, il y a Marcel Blanc devant la télé avec une d'œuf.
Vous trouvez normal qu'il trouve que Jean, c'est un monstre inarrêtable de ce qu'on a vu? On a vu une scène où elle découvrait qu'elle avait des pouvoirs et elle a fait une connerie.
Mais moi,
lui, il peut pas se douter que c'est de sa faute. À part que, oh, il y a la radio qui a fait des trucs bizarres à un moment.
Ouais, lui, je pense qu'il le sait quand même.
Non, il est docteur en plus, je crois, donc il est censé. Okay. Mais après, moi.
Mais de là à dire, ouais, c'est une force inarrêtable, mais c'est un monstre,
machin. C'est là où moi je comprends Xavier, tu vois, qui se dit, le père, il est incapable de gérer ça. En plus, Xavier, il est télépathe, donc il sait que c'est une nana qui a un pouvoir hyper puissant. Il sait qu'elle pourra pas rester éternellement
avec
son
père. Le père est très genre c'est un monstre.
Ouais, c'est pour ça qu'il la récupère et qu'il a pas trop de
comme si lui il savait que elle allait un jour se transformer en phénix et tout.
Non, mais pas pour le coup. Ce qu'elle a déclenché dans le truc, c'est quand même en mode elle a crié, sa mère s'est endormie et tout le monde est mort, quoi.
Ouais, mais c'est doute que c'est une gamine. Elle a quel âge, 8 ans?
Oui, oui, mais c'est pour le coup, on revient aux premières scènes de mutants du premier X-Men où
dans la bagnole, comme si elle avait l'air d'être une famille heureuse soudée, enfin genre
c'est comme si elle avait 8 ans, elle avait poussé sa mère dans les escaliers. Est-ce que ça veut dire que c'est une folle ou est-ce que ça veut dire que c'est juste une enfant de 8 ans qui fait une crise et qui sait pas ce qu'elle a fait, quoi?
Ouais, mais avec des super pouvoirs qui ont la possibilité de faire
contrôle pas, quoi.
C'est ça le truc qui fait peur, c'est quand ça touche la thématique globale des X-Men, ils nous font peur, les mutants.
C'est le père qui lui a demandé à Charles de dire qu'il était mort.
Et c'est pour ça que je dis que je comprends presque sa décision quand tu vois la réaction du père qui est horrible avec sa gamine, quoi.
Mais je crois que lui dit je veux plus jamais la revoir. Enfin,
c'était vraiment pas malin de la part de Charles, parce que Charles arrête, meurt, qui est-ce qui prend ça, qui est-ce qui va vous reprendre Cérébro et ce genre de truc. Elle aurait accès à.
Oui. Non, mais de toute façon, c'est une décision de débile. Oui, comme de protéger les gens de la vérité, c'est quand même vraiment.
Ça marche rarement.
Ouais, c'est quand même jamais un très bon truc, quoi.
Les X-Men arrivent.
Ouais,
Quicksilver, il essaie de faire son truc, mais il se prend une branlée tout de suite. Ouais, donc c'était voilà.
Plus du film, c'est
non, ouais, apparemment il se fait mal.
Ouais, c'est ça.
On le voit même pas les pieds dans le plâtre, un truc.
Si, on le voit en brancard. À la toute fin, on le voit, il dit, courez pas trop vite.
Ouais, mais il est cool.
Dans la dernière séquence.
Soyez prudents.
Une blague digne de Sonny Cléris.
Ouais.
Genre, les enfants, courez pas trop vite. Et ne prenez pas de drogue. Et donc on a la mort de Raven, ça libère enfin Jennifer Lawrence de son contrat et de son maquillage.
Ouais.
Donc, alléluia, depuis le temps qu'elle voulait enfin être libre de tout ça.
Je sais pas si
c'était la saga X-Men, au final, c'était aussi la grande saga Jennifer Lawrence qui veut pas mettre son maquillage avec le temps.
Non, mais pour le coup, ça, je pense que ce serait hyper intéressant de se pencher un peu sur l'évolution de son rôle, de son implication et tout, pour se rendre compte peut-être de la baisse d'intensité et d'évocation que les blockbusters ont généré ces 10 dernières années, quoi. Parce que tu vois, c'est vraiment avec le MCU, il y a un côté où c'est devenu vraiment, genre là, comme on dit, une lambda, quoi. La meuf, elle avait le rôle principal de la saga X-Men. C'était tout pour elle au départ, et à la fin, elle avait plus rien à foutre. Quoi.
Ouais, mais aussi, ça a été mal écrit. S'ils avaient fait un grand film où d'un seul coup, elle avait eu un super rôle dedans...
Ah, mais je pense que, tu vois, quand ils ont débarqué là-dedans, ils se sont tous dit, on va faire le Dark Knight. Quoi. Enfin, tu vois, on va avoir ce côté, ça va être la trilogie, enfin, le truc qui va marquer, quoi.
Ouais, on veut être les nouveaux Hugh Jackman et compagnie, ouais, quoi.
C'est devenu tellement anodin que...
Ils sont passés à côté. Hein.
Ouais.
Dans quoi, est-ce que si un jour Jennifer Lawrence devait être dans Marvel ou un
truc comme ça... Parce que là, on risque pas de la revoir dans un film de super-héros à un moment. Hein.
Ouais, mais genre en tant que méchante ou un truc comme ça...
Bah, là, elle commence à avoir quel âge? 30 ans, quoi, c'est ça?
Non, elle a mon âge, non? Je crois qu'elle est un peu plus vieille.
Une trentaine.
Ouais. Elle est un peu plus vieille
que moi. Au départ, elle aurait pu faire une bonne sous, là, de Fantastic Four. Tu vois, ouais. Dans l'idée, ça aurait pu être ça.
Après le rôle, s'ils font encore la ménagère,
je veux dire n'importe quelle fille de l'âge qui correspond pourrait faire ce rôle-là, quoi, enfin, sur le papier. Je veux dire, rien d'extraordinaire, quoi. Non, franchement, dans Marvel, je la vois vraiment pas trop faire grand-chose, quoi. Enfin,
tous les rôles sont pris, maintenant.
Bah, ouais. C'est un peu ça. Quoi.
Ouais, c'est clair. Moi, c'est une actrice que j'aimais bien et qui m'a désintéressé. Enfin, je me suis désintéressé de sa carrière.
Bah, je la vois pas évoluer.
Ouais, c'est bien, ça. En fait, depuis qu'elle a fait, pour moi, le dernier film qu'elle a fait, c'était Silver Lining Playbook, là.
Oh mon Dieu,
que j'ai bien aimé, mais sinon, au-delà de ça, après, c'est du tournage en rond, quoi.
Non, mais les films qui savent pas de quoi ils parlent, je peux pas.
C'était quoi ce film? C'est de qui ce film?
Je sais plus, mais c'est un film qui parle des bipolaires et c'est du grand n'importe quoi. C'est un truc, c'est du grand n'importe quoi.
Tu sais, elle a eu l'Oscar pour ça. C'est le film avec l'autre.
Elle était très bien dans Winter's Bone.
Ouais, c'était le premier. Elle a eu la nomination aux Oscars pour ça.
Ouais, elle était bien là-dedans. Après, ouais.
Happiness Therapy en France.
Happiness
Therapy. Elle a fait Red Sparrow, là, qui avait pas marché.
Ouais. Bah, c'était un peu son passage à est-ce que je suis une actrice qui permet de monter un gros projet sur moi ou pas, quoi. Et non.
Et le film avec Chris Pratt qui a pas marché non plus.
Passenger, ça a pas trop bidé.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Non, ça allait. Mais les deux pour le coup, étaient sur.
C'était pas problématique ce film.
Si, bah, c'était le good guy ultime, quoi. Tu sais, guy ultime, quoi. Ouais, le mec qui te réveille pour se mettre en couple avec toi.
Enfin, c'est le.
Génial. Bon, allez, on retourne au film.
Ouais.
Fin de la page People. Jean se rend à Genosha. Donc une île pour les réfugiés mutants. Et un truc que j'imaginais pas trop voir sortir de la page des comics, quand ça arrivait, je fais « Merde, ils sont... » Tu sais, je vois juste... Il n'y a pas un moment où ils disent « Ouais, on est à Genosha, etc. » Mais je vois Magneto sur une île avec d'autres mutants. Je fais « Putain, ils ont fait Genosha, quoi. » J'étais vraiment étonné sur le coup. Ouais, donc c'est une sorte de métaphore pour Israël, en fait, sans le côté problématique. Et ouais, donc Eric habite là, et il gère tout ça.
Il y a des réfugiés mutants qui viennent.
Voilà, il a plus fait de bêtises depuis longtemps.
Il est rangé.
Depuis qu'il a tué des millions de personnes dans le film précédent. Et...
Ouais. Bah, qu'il a collaboré à tuer des millions de personnes.
Ouais. Bah, c'est même lui, avec son pouvoir, qu'ils ont tué.
Ah oui, c'est vrai. T'as
c'est lui directement, ouais.
Ouais. Bah, pour le coup, c'est un truc qui sont. Pour... Autant dans les premières trilogies, ils ont très bien réussi à traiter ce côté paria, les mutants, ça font peur à l'humanité et tout, mais alors dans celle-là, c'est totalement éludé comme concept. Quoi. Mm-hmm. Enfin, je veux dire, là, tu te dis, les mutants, est-ce qu'ils sont pas acceptés dans la société ou pas
Bah, ils ont l'air de l'être, il y a des filles et tout.
L'impression
on dirait qu'ils sont bien intégrés à la société, mais en même temps, il y a un truc de pour les réfugiés mutants. En gros, pour les mutants qui veulent vivre ensemble, quoi. Un peu comme les réserves pour les Indiens d'Amérique, tu vois. C'est un peu un truc dans le même genre, sauf que bon, ils sont pas forcés d'être là. Mais enfin, c'est un peu comme ça que je le vois, je pense. C'est vrai qu'ils le vendent un peu plus comme genre c'est Israël, on va créer un nouveau pays, etc., etc.
Elle est toute petite, l'île, quand même.
Oui. Ouais, elle est petite, elle est un peu trop petite pour que ça devienne.
Ouais, là, c'est
il va savoir, il peut contrôler le métal, donc il peut construire une énorme île faite de métal.
C'est hein. Sachant que c'est que des bâtiments en métal.
Ouais.
Donc il y a une scène de combat où ils se battent via un hélicoptère et ils essaient de faire tomber l'hélicoptère et ça, j'ai l'impression que cette scène dure 15 minutes où ils sont en train de se battre. Mais c'est vrai, ils sont là, celui qui est en train de chercher pour faire le plus gros caca là, ils sont là en train de serrer les dents.
C'est pas impressionnant du coup. Enfin, genre, non, ils sont statiques, ils sont en train d'essayer de bouger les bras pour chacun essayer de contrôler l'hélice là.
C'est mou.
Un truc que je voudrais dire.
Remonte dans le truc, remonte et tout, j'arriverai pas à la couvrir.
Et il les envoie dans les airs, genre les mecs sont morts, quoi. Un truc que je voulais dire quand même, c'est que Sophie Turner, son accent américain est bien meilleur dans ce film-là que dans le précédent. Et donc ça passe un peu mieux, parce que dans le précédent, elle avait un très mauvais accent américain. Et donc ça faisait bizarre. Là, tu sens qu'elle a travaillé.
Au niveau acting, elle s'en sort pas trop. Elle n'est pas super bien dirigée, parce que je pense que Kimberg, il s'est pas très bien dirigé.
Dans Game of Thrones, je trouve que c'est une très bonne actrice.
Ah bah clairement, moi je l'aime beaucoup dans Game of Thrones, mais là, elle joue bien, mais pas.
Elle a eu plein de trucs différents à jouer en plus.
Non, là, ça, c'est pas. Dans le dernier, c'était problématique. Son jeu, là, ça
non,
passe.
Non, là, il est cool, elle peut porter le film, mais je me suis dit, à mon avis, on la reverra, quoi.
C'est dommage, limite, de passer encore plus appuyé sur elle, je trouve. Mais c'est tout le problème de la fin, où on va la dédouaner de plein de trucs.
C'est aussi le problème d'avoir un film avec 20 mutants dedans, quoi. Tu peux pas...
Ouais, mais parce que tu sens que la volonté du film, c'est de coller à sa basque et de suivre son parcours.
Parce que tu regardes Logan, trois personnages, le méchant... Et en gros, l'infirmière, elle est pas mutante en plus.
Non, c'est ça.
À la fin, il y a les petits mutants que tu vois, mais voilà, en gros, le film est basé sur trois personnages et c'est tout. Mm-hmm. Là, t'as vraiment toute l'équipe X-Men, t'as les jeunes, t'as les anciens, t'as Magneto qui a lui-même sa propre équipe avec un mec qui se bat avec ses cheveux.
C'est vrai, j'ai
pas réussi à savoir d'où il est celui-là.
Mais ça encore, ça fait tellement. Ça fait tellement Bryan Singer. Non, pas Singer, mais je voulais dire comment il s'appelle, Brett Ratner. Brett Ratner dans le 3.
Ces idées de mutants de merde, quoi. Tu vois, t'as plein de mutants sympas que tu peux utiliser, tu utilises un mec qui se bat avec ses dreads, quoi. Franchement,
c'est bizarre, hein.
Bah, c'est
avec des pics.
Non, mais c'est à quel moment, genre, quand tu fais un
dans un film sérieux en plus, c'est pas genre on va rigoler, tu vois. Genre,
mais à quel moment, tu fais un brainstorming et le mec qui a gagné le brainstorming, c'est le mec qui a dit sur un mutant qui se battait avec
Shadowlands. On n'a pas son nom une seule fois, on le voit dans le champ, il fait 2-3.
Peut-être qu'il est dans les comics et qu'il a un super.
Ah, bien sûr,
super pro.
Mais j'ai pas réussi à le trouver au casting parce que j'ai cherché savoir d'où il venait ce mec-là.
Bah, il a l'air de venir de genre du
Dreadlock Man.
C'est comme ça, il a une tête un peu de Maori ou un truc comme ça.
Jean rencontre Jessica Chastain.
Ah, on va pas parler de ce perso.
Dans le rôle, elle joue le rôle de Vuk.
Oui.
Ouais. À base, on pensait que ce serait le rôle de l'État, je sais plus le nom.
C'est le leader d'une race alien nommée les Dibari.
C'est pas les Chiers ?
Non, on va dire les Dibari. Dans le film, ils disent
Dibari.
Ouais,
ok.
Ouais. Même je me suis dit, ça ressemble à une tribu de Black Panther, Dibari. D apostrophe Barry. Tu vois, ça fait vachement M'Baku.
c'est vrai.
Et donc, eux, ils désirent récupérer le phénix pour détruire les humains et reconstruire la Terre à leur image. Ouais. Super original comme idée, les gars.
Eux, pour moi, c'est là où le film sombre littéralement dans quelque chose qui est inintéressant.
J'ai levé un sourcil quand cette scène est arrivée. Genre, ah, c'est ça alors qu'elle joue. C'est genre, ouais. Ok.
Quand elle est au dîner avec ses amis et qu'elle rencontre.
Qu'elle se transforme et que je fais putain, on a vu un film sur une super héroïne dans les années 90. Avec des aliens qui se transforment, il y a combien de temps là ? Il y a
3 mois.
Là, c'est pas de leur faute. Hein. Ils avaient vraiment pas.
Les aliens. Ouais, en plus,
ils n'avaient pas prévu que les Skrulls et tout, que ça allait ressembler, enfin que ce serait. Mais quand tu. Il y a des petits trucs quand même, c'est marrant.
Après, moi, au départ, je me suis dit, ah putain, ça va peut-être être un film de body snatcher, il y a un truc à creuser. Et en fait, même pas. Enfin, c'est pas du tout exploité. Quoi. C'est côté les mecs me font
ça comme si c'était des espèces de zombies incarnés.
Ils l'utilisent pas bien.
FBI à 2 balles.
Ils l'utilisent pas super bien ce pouvoir là, j'ai l'impression dans le film. Même dans Captain Marvel et tout, tu vois. Genre
le switch.
Non, genre juste se transformer et prendre le pouvoir.
Le body snatcher, c'est mal traité.
Si, j'aimerais bien un bon film là-dessus, quoi. Ce serait vraiment bien.
Il y en a, mais bon.
Oui, mais un film super-héros, je veux dire.
Même dans Logan, il y a le double, mais c'est pas ça.
Tu vois, ou comme dans les 4 Fantastiques, il y a on échange les pouvoirs. J'aimerais bien voir ça un peu plus souvent, tu vois, de temps en temps, un petit truc. Thor et.
Mais avec l'aspect cosmique, ça.
Thor et Hawkeye, ils changent de pouvoir.
Ouais.
Voilà. Ouais, c'est vraiment. En plus, c'est nul parce que c'est un méchant qui a une motivation à 2 balles 6 et qui vient en fait dédouaner Sophie Turner, enfin le rôle de Jean, de son potentiel
la rendre un peu plus bête, genre on va rendre son personnage un peu plus bête et naïf.
Elle boit un whisky dans un bar, la meuf vient, en 2 secondes elle la manipule, elle lui fait tourner la tête. Mais putain,
moi je te comprends, ils te comprennent pas.
Alors que pour le coup, dans la saga comics, c'est toute une histoire d'amour simulée dans une autre époque, enfin, c'est un truc hyper complexe. Et qui pour le coup fonctionne beaucoup mieux parce qu'il y a un côté totalement perdu, quoi. Enfin, t'es dans un marasme de dimensions, de machin. Là, c'est tellement bateau que.
Et les méchants, c'est pas Sébastien Shaw et tout. Ils l'ont déjà fait.
Oui.
Emma Frost.
Ils l'ont raté.
Et je me suis dit en regardant ce film, je fais putain, c'est un film pour Emma Frost. Chastain, tu la mets en Emma Frost et voilà.
Ça pouvait marcher.
Hein. Tu lui mets même pas le costume à la con des comics comme ils ont fait dans First Class où il. Rester fidèle au costume des comics juste pour les personnages féminins qui sont sexy, franchement, ouais. Hein, Psylocke, Emma Frost, genre eux, elles ont le droit d'être habillées en bikini, mais les mecs ils ont pas le droit d'être. Genre Wolverine, il a jamais eu son costume, quoi. C'est quand même hallucinant que Wolverine ait jamais eu son costume.
Mais tu vois, ce perso il est quand même vraiment insipide, son armée insipide, cette menace insipide. Et pour moi, je comprends pas ce qu'elle vient foutre là, Chastain. Oui. Qu'est-ce qui lui a fait accepter ce rôle? Alors, à part le délire de se dire, c'est un film sur une super-héroïne qui va devoir découvrir qui elle est, assumer ses émotions, donc ce côté féminisme, c'est un super bateau, quoi, je sais qu'elle est hyper là-dedans, mais après, je la crois plus intéressante et plus intelligente que ça, tu vois, de tomber là-dedans et de se dire, c'est un rôle pour moi parce qu'il y a ce propos derrière, quoi. Je comprends pas vraiment ce qu'elle fout là, quoi. Moi, c'est une actrice que j'aime énormément et je suis un peu déçu qu'elle soit tombée dans un rôle aussi merdique.
En dehors de Charles, les trois rôles principaux sont féminins. Pour un film de super-héros, non, c'est quand c'est même.
Non, mais ça là-dessus.
Non, mais rien que pour ça, j'ai envie de dire. Je regardais le film et je me disais, quand même, c'est vrai que les personnages qu'on voit le plus. Bon, c'est vrai qu'il y a Raven qui meurt, mais si elle avait été dans le film pour plus longtemps, à mon avis, ça aurait été les trois personnages les plus importants du film, quoi.
Ouais, et
je pense que c'est peut-être ça qui lui a plu, genre un côté girl power. La saga X-Men devient donc X-Women, comme tu disais.
Ouais. Bah, je pense qu'il y a un peu de ça, parce que c'est quand même.
Parce que c'est pas le rôle. Hein. Le rôle, il est très. Ouais. À part, comme je te disais, juste pour avoir un côté jouer la méchante Disney, un peu la méchante tout simplement.
Bah, c'est ça, on lui avait proposé le rôle dans Thor 3, par exemple, dans Thor Ragnarok.
Ouais,
Kate Blanchett, c'est clairement ce.
Elle a refusé les rôles de Maria Hansen dans Iron Man 3.
Ouais.
Et de Hope Van Dyne dans Ant-Man.
Ouais, dans Ant-Man aussi. Donc, Hope Van Dyne, ça aurait pas donné grand-chose.
Elle aurait pu donc soit jouer aussi une méchante, bien que dans Iron Man 3, la pauvre, son personnage a été coupé et tout.
Mais alors, déjà, je pense que le fait qu'elle soit dans le film, ça valide un peu plus ma théorie sur l'histoire du message en sous-texte sur Bryan Singer, parce que. Elle irait pas du tout vers un mec qui est pote avec lui, qui est encore en mode cul et chemise.
Si c'était produit par Singer, elle serait pas là.
Elle serait pas là. C'est vraiment pas une meuf qui
est là-dedans.
Non, il est pas au générique.
Sérieux, j'ai regardé le générique.
Moi, j'ai regardé, il y a pas son nom du tout.
Il me semble avoir vu ça sur.
Non, je crois qu'il est vraiment.
On vérifie pour pas dire de conneries.
Ouais, vérifie. Et alors.
Produit par non, pas produit par Singer.
Et alors, moi, j'aime bien tirer le truc un peu plus loin. Ça me fait marrer de me dire que. Est-ce que vous y voyez pas une légère métaphore sur Fox et Disney
à la fin du film, je vais revenir à la fin du film.
Bon, bah super.
Attends, tout le monologue de fin de Jean, c'est ça.
Clairement.
Et ça a été réécrit, donc en plus après le.
Oui, c'est volontaire.
Il y a Hank qui a une très bonne scène avec Charles, dont on en parlait tout à l'heure, peut-être une des meilleures scènes du film. Il lui gueule et il lui dit écoute mec, on en a marre de tes conneries maintenant, ça fait. Mais franchement, ça fait 4 films là.
Là, Charles, pour le coup, il va loin.
Et là, il n'en peut plus, mais que ce soit son bras droit, le mec qui soit vraiment depuis le début, il a toujours été là, il le portait quand il était ivre-mort et drogué et des trucs comme ça. Là, que ce soit lui qui dise bon, écoute mec, maintenant j'en peux plus, je vais être une bête maintenant.
Il vient de perdre la meuf qu'il aime aussi.
Ouais, voilà.
Et puis j'aime bien le fait qu'après ils rejoignent Magneto et leur relation. Je trouve que c'est un des trucs intéressants du film d'explorer ce.
Ouais, avec les deux se regardent en disant.
C'est un bon duo, j'aime bien.
J'aime bien aussi.
Avec les deux se regardent en disant.
On aimait la même meuf.
On aimait la même meuf et donc.
Ça m'a rappelé des trucs. Ce qu'ils n'avaient pas réussi avec Scott et Logan dans X-Men 3. Quoi.
C'est moi ou pour balancer.
Même si c'est pas du tout les mêmes rapports de personnages.
Pour balancer le fait qu'il n'y ait pas Raven en maquillage, etc. Ils lui ont donné beaucoup plus de maquillage.
Hank est bien fait. Hein.
Non, mais il est plus souvent aussi.
Il n'est pas mieux fait.
Il n'est pas mieux fait, souvent, mais il est plus souvent. Et il est un peu plus carré. Comme il est grand, l'acteur, ça va mieux. Quoi.
Ouais, moi, je trouve qu'il est mieux proportionné.
Ils l'ont un peu mieux.
Il ressemble un peu plus à la bête du
comics. Et surtout, il est très rarement en mode humain dans le film.
Il y a cette scène où il s'énerve.
Il peut vraiment se contrôler. Enfin,
ça, c'est un problème.
Parce qu'à un moment, il choisit, genre, il est en mode genre, hop,
t'as c'est pas expliqué. Est-ce qu'il continue à prendre sa drogue qui l'empêche d'utiliser son pouvoir
Ou est-ce qu'il a réussi à trouver un équilibre
Je sais pas. Il y a une bagarre à New York ensuite.
Oui.
Ouais, ça, je voudrais en parler parce que moi, il y a encore une phrase qui m'a fait tilter. C'est la phrase justement de Magneto. Attendez, j'ai pris une capture d'écran du dialogue parce qu'il m'a fait vraiment marrer. Parce que je me dis, ça, pareil, c'est dans la volonté de dire, encore une fois, de taper sur ce qui avait été fait avant. Donc t'as Eric qui dit the world is on the brink et donc voilà Et Charles, il dit, je suis désolé, j'aurais dû arrêter ça avant. Et Magneto, il regarde, il dit, t'es toujours désolé, Charles. Et, mais ouais. À la fin, tu fais toujours un espèce de discours de merde et tout le monde s'en fout.
Je me suis dit, est-ce qu'il se foutrait pas, est-ce qu'il se foutrait pas un peu de notre gueule? C'est genre, regardez les trucs que j'ai fait depuis le début. Et genre, ah, c'est drôle, hein. T'es là genre, ouais, nous on les a regardés tes 4 films.
Pour moi, c'est encore une attaque à Singer. Hein. Enfin, pour moi, c'est encore le truc en mode.
Je sais pas, parce que c'est Kinberg qui a écrit les films d'avant.
Ouais, mais
pour dans First Class, il était déjà un peu comme ça. Et Magneto, Charles, alors que c'était pas écrit par Singer. Donc ouais, j'ai plus... Et Kinberg était producteur, déjà, à l'époque. Donc,
Il y a un truc bizarre.
Ouais, non, je pense que là, c'est plus... Il fait un clin d'œil au public. Genre, ouais, vous savez, comme on a écrit Charles comme ça, bah, on n'est pas désolé. Ouais. C'est ça, le message.
C'est vraiment un doigt, petit doigt levé. On
ouais, exactement.
Faire, vous faire foutre, les gars.
Donc, il y a la bagarre.
Mais il se donne à fond, par contre, James McAvoy, je trouve.
Ouais, les deux,
Il joue plutôt pas mal. Enfin,
McAvoy est un très bon
acteur. Ouais, car moi, j'aime beaucoup, mais je trouve que dans ce film-là, il est vraiment... Ouais, vraiment bien
mais
il a le rôle,
mais il fait bien passer les émotions qu'il doit faire passer qui sont pas des émotions super.
Vous avez remarqué, il fait plus le truc où il se touche la tempe
quand il réfléchit, enfin,
non, quand il utilise ses pouvoirs, dès qu'il utilisait ses pouvoirs, il se touchait la tempe dans les films précédents, et là il le fait pas. Là il est comme le vrai, bien que c'était dans le dessin animé où il faisait ça comme ça, mais dans les comics il utilise juste en faisant la pensée, quoi.
Normal, ouais, il n'y a pas de bouton au niveau du sourcil.
Ouais, je me suis demandé comment ça se fait que si c'était un choix de McAvoy, il s'est dit, ah, j'en ai marre de faire
Je pense que ça doit être le réal justement, qui apporte sa petite touche en disant, les gars, c'est un peu con de mettre ta main.
Peut-être une manière aussi de montrer que les personnages évoluent et ils gèrent mieux leur pouvoir, je
crois. Donc c'est là qu'on voit un mec qui se bat avec ses cheveux, hein, c'est un peu le némésis de Charles.
J'ai rien compris cette scène, la meuf qui est figée avec le couteau, le truc, j'ai rien.
Même Magneto qui
Charles
sort
la
le
bloque
métro.
Et elle bloque Nightcrawler.
C'est ça.
Ouais.
Et Nightcrawler essaie de se téléporter jusqu'à Charles pour pouvoir téléporter Charles, mais elle envoie Nightcrawler partout et lui il la bloque en même temps.
Et Charles qui est en fauteuil roulant au milieu du combat et qui ne prend pas un pet une seule fois.
Il est tranquille. Tu sais, il cligne même pas des yeux ni rien, il a pas peur. Il s'en fout.
Ouais, et après Rick qui fait sortir un métro.
Ouais, ça je comprends pas pourquoi il fait sortir un métro à ce moment-là.
Pour bloquer la porte.
Oui, d'accord. Non.
C'est une drama queen, Eric. Il est très dramatique comme mec. C'est genre. Il aime bien faire. Il réussit toujours son entrée d'ailleurs. À chaque fois, il arrive en volant quelque part et tout.
Là, moi, j'étais au début de commencer à m'endormir.
Ah, ok.
Là, ça devenait compliqué.
Et la confrontation à l'intérieur du bâtiment, du coup.
Ouais, donc Eric se fait plus ou moins battre facilement par Jean en 2 secondes.
Torture d'handicapé.
Il y a une petite réminiscence de ce qu'il a fait aux gardes nazis dans First Class. Le côté, je prends un casque et je voulais. Je vous condense la tête avec.
Ouais, le pauvre Charles qui est sorti de son fauteuil roulant et on lui dit allez, maintenant tu marches. Alors, enfin voilà, c'est un peu cruel.
C'est particulier. Hein.
Et lui, il décide de lui dire lis mes mémoires, lis mes souvenirs, etc. Tu verras, je suis pas un mytho.
Enfin, si, je suis un gros mytho, mais.
Je suis un mec bien, allez, reprends-moi. Reprends-moi.
C'était pour ton
ok,
bien.
Je t'ai trompé avec ta sœur. Mais... Et donc voilà, ouais, donc elle se rend compte, et on voit qu'il y a donc encore un peu de gin.
En elle.
Dans le tonic.
C'est ça.
Oh, merci. Oh, et ouais, donc elle demande à Chastain d'absorber le phénix pour.
Non, ça c'est pareil, c'est un truc.
J'ai compris.
Elle absorbe le phénix,
mais pas entièrement. Du coup, l'autre, elle l'a encore, c'est ça.
Ouais,
parce que le phénix, on peut se le partager dans les comics.
C'est ça.
Dans les comics, il y a un truc qui s'appelait c'est X-Men versus Avengers ou Avengers versus X-Men. Je me rappelle plus de l'ordre, mais en tout cas, le délire, c'était que Cyclope, Colossus cette fois, Magic et un quatrième personnage, Namor. Okay. Namor, The Submariner.
Ouais, bah oui.
les quatre, ils ont chacun un quart de la Phoenix Force. Et les Avengers et les X-Men, ils se battent pour la récupérer et pour les empêcher de faire des conneries. Et il y a Charles qui meurt d'ailleurs dans ce comics, tué par Cyclope. C'est un gros event. Donc si t'as pas tous les comics, tu connais pas les personnages qui se pointent et tout. Donc faut vraiment, vraiment s'accrocher, quoi. Ça pourrait la tuer d'absorber le Phénix, dont Scott et Xavier décident d'empêcher tout ça. Et là, tous les mutants se font capturer par le gouvernement américain parce que ça faisait longtemps.
Ouais. Sauf Jessica Chastain qui est sur son toit. Donc, Ils vont pas jusqu'à là-haut, le gouvernement. Ils s'arrêtent.
Elle se sauve vite fait, discrètement.
On les connaît.
Non, les chaos, non, elle se réveille bien après en plus.
Oui, elle se réveille bien après.
Ouais, genre en mode, non, on check tout le bâtiment, on le toit, dans lequel il y a un gros trou. Non, on le check pas, ça. On s'arrête là.
Ouais, et puis c'est marrant. Ouais,
je m'attends. Ce métallique qui s'accroche Magneto, faut bouffer. No shame, quoi.
Je m'attendais pas. Non, mais ils ont eu
ah,
un collier, le collier de Deadpool.
Oui, le collier de Deadpool, c'est vrai.
Qui est le collier magique qui est apparu dans Deadpool 2. Alors maintenant, ils se disent, alors on va le mettre partout. Et c'est marrant que le gouvernement, l'armée soit de retour en tant que méchant d'un seul coup, sorti de nulle part. Et j'étais là, je fais oh putain, mais c'est genre, mais laissez-nous tranquille avec l'armée contre les mutants. Là.
Surtout que c'est vachement incohérent parce que même s'il y a des embrouilles avec les mutants qui foutent un peu le bordel dans les villes, ils sont censés avoir trouvé une espèce d'équilibre vachement stable avec le président des États-Unis, un téléphone.
Ouais, mais il répond plus au téléphone.
Ça switch à une vitesse.
Ouais, s'il répond plus au téléphone, ça veut dire qu'il a construit un camp.
C'est terminé.
Il a construit des camps de concentration, ça veut dire.
Parce qu'en plus, t'as vu.
En plus, il les emmène dans un camp.
Ouais, c'est ça.
Jim Gray, elle a détruit un pavillon de banlieue.
Elle a tué des flics.
Ah, tu as. Non, là, ouais,
elle a tué des flics.
Elle a pété deux gouttières, quoi.
C'est vrai que c'est un peu un personnage qui mérite la prison. Ouais. Bon là, moi, le sommeil a commencé réellement à taper à ma porte au monde.
Ouais, donc ils sont tous mis dans un train.
Encore une scène de train.
Ouais. Vers une prison secrète. Donc bagarre dans le train. Mm-hmm. Il y a quelques moments cool pour Magneto. Ouais. Magneto, il fait hop hop hop, il tue deux trois gens.
Il y a un crawler qui pète.
Tu dis putain, Magneto, ça marchera toujours. C'est genre, c'est là que tu dormais, donc t'as pas dû vraiment voir. Mais c'est les moments où Magneto, il fait des trucs cool, genre tous les flingues, il les fait se lever, ensuite il tape des mecs avec des trucs, ensuite il fait péter le train. Enfin, donc tu te dis, ouais, Magneto, ça passe toujours bien quand même.
Il y a une scène où Nightcrawler pète un plomb aussi.
Oui, il décide de tuer des gens avec sa queue et tout.
Il se vénère d'un coup, il passe en mode berserk.
Il se bat contre une espèce d'armée d'extraterrestres.
On dirait des zombies. Vraiment des zombies qui sont incompréhensibles dans la façon d'être.
Toute l'armée se fait tuer, mais le dernier mec libère tout le monde.
Parce que son fils aime les X-Men et Nightcrawler.
Oui, c'est ça. Et donc Nightcrawler, c'est pour ça qu'il est vénère, qu'il se transforme en super guerrier et tout, il devient jaune et tout, c'est marrant.
Non, c'est vrai ?
Non. Ça aurait été cool, putain. Je me serais levé, genre, enfin enfin, Nightcrawler, il a le. Parce que j'aime bien ce personnage, il est touchant, Nightcrawler, il est gentil. Quoi.
Ouais, ouais, il est pas si pire en plus dans cette saga.
Et donc, Jean, il y a encore Vuk qui essaie de récupérer le phénix de Jean. Et donc elle l'emmène dans l'espace et elle se sacrifie. Et cette fois au moins, c'est pas un homme qui le fait pour elle. Bravo Jean. Et c'est toujours ça.
Ouais, voilà. Non, c'est clair.
Voilà, c'est juste le petit point féminisme. À la toute fin du film, on dit en fait, là, au moins cette fois, c'est elle qui se suicide. Ok. T'es là, genre, ok. Ouais. Apparemment, toutes les scènes de train, c'est des reshoots.
Ah ouais, c'était dans l'espace à la base.
Ouais, ça devait se dérouler dans l'espace.
Alors, je te dis quand même qu'il devait y avoir un bon gros changement de 2000 blics quelque part. Parce que pour
partir. Elle s'envole dans l'espace.
D'après ce que j'ai compris, c'est parce que dans les premiers tournages, les pouvoirs des personnages n'étaient pas assez utilisés. Du coup, ils ont fait une scène pour qu'on y ait plus de
démonstration de pouvoir des personnages. J'avais lu que c'était trop similaire à un climax récent d'un autre film de Captain Marvel, je crois.
Elle pète le vaisseau.
Ouais, je crois que c'était ça.
Où elle fait la spéciale Captain
Mais
Marvel.
Mais après, ça a été re-shooté après, avant Captain Marvel, je pense.
Captain Marvel, elle voit un vaisseau, elle le pète. Ouais. C'est genre, non, non, c'est les Guardians. Oh merde.
Le Bellator, putain.
L'école est renommée en hommage à Jean Grey, comme dans les comics.
Ouais, génocidaire. Elle a pas fait un génocide, mais elle a quand même buté
le
monde.
Non, pour le coup, elle a pas fait un génocide.
Non, mais elle a buté des flics. Ça va, hein. Moi, je redonne pas l'école après quelqu'un qui bute des flics.
Blue Lives Matter.
Ouais. Et du coup, c'est le fauve qui devient directeur de l'école.
Voilà.
Mmh. Le silver qui dit aux gens de pas courir trop vite. Parce que lui, il court très vite.
Ouais.
Franchement, cette fin, tu sens que c'est du reshoot aussi.
Ouais.
Pour avoir
un
truc cadré pour la fin.
Même pire, tu penses que c'est un stock shot dans lequel ils ont redoublé tout le monde.
Et les scènes du château de loin, il y a des trucs, des fois, c'est...
Ouais, en effet spéciaux, ça picote les... C'est-à-dire qu'on parle d'un château, les gars, quoi. À un moment, vous pouvez en trouver un juste pour faire un plan d'hélicoptère, quoi.
J'ai regardé ce film sans le regarder. Et ouais, donc il y a un gros clin d'œil, j'ai l'impression, au rachat de Disney à la fin du film, puisque Jean parle de... Les mutants, nous devons évoluer. Nous devons changer, même si on n'aura pas la même tête demain. Enfin, je sais plus ce que je voulais dire.
T'as dit, tu parlais, il y a un gros clin d'œil avec le rachat de Disney.
Ouais, c'est ce que tu voulais dire. Non
ah non, moi je le voyais ailleurs, le clin d'œil, mais moi je le voyais beaucoup plus en sous-texte, en mode théorie du complot. Donc le scénario, on est d'accord que c'est une meuf qui a plein de potentiel et qui se fait approcher par quelqu'un qui veut utiliser son potentiel pour bâtir un nouvel empire. Donc on a les X-Men, la licence, qui se fait, qui a plein de potentiel, et qui se fait accrocher par une grosse entité qui s'appelle Disney.
Ouais, t'es parti loin, là.
Bah, c'est juste qu'il y a une vieille métaphore pourrie à faire. Entre les... enfin, il se passe la même chose avec Dark Phoenix qu'avec la Fox, qui se fait racheter, et qui va être dénaturé, parce que ça a pu être la même chose, machin. Voilà, j'avais envie de faire un parallèle de merde. Mais je suis conscient que celui-là, il est vraiment tiré par les cheveux. Je vous l'accorde.
Ça va être tellement dénaturé que Fox News va rester la même chose.
Non, en plus, je pense qu'on en parlera. On a dit qu'on en parlait peut-être aujourd'hui, mais on verra ce que Marvel fera, enfin, ce que le MCU fera avec les X-Men, quoi. Je pense que pour le coup, ça va être compliqué, mais ils peuvent être un peu plus fidèles à certaines idées visuelles du comics, en tout cas.
Et donc, Xavier vit à Paris.
Enfin, à Montréal, mais c'est Paris, quoi.
Voilà. Et Eric vient jouer aux échecs avec lui parce que c'est obligatoire.
Évidemment. Au café des vieux amis.
Et oui, friend, il y a des vannes plein de films là-dessus en plus.
C'est vrai qu'il arrête pas de dire
Cut the friend, friend shit.
Généralement, t'en as une ou deux.
Il y a Cyclope qui lâche un fuck à un moment.
Ah bah ouais, je crois.
Ouais, j'étais choqué.
Je dormais, je crois. J'ai entendu qu'il
de tous les personnages.
Il est en train de se rebeller un peu, il a toujours été sous
c'est le fuck dont ils avaient le droit.
Il y a un shit et un fuck. Ouais. C'est les quand t'es
le shit, c'est le cut the old friend shit de Magneto quand il voit Charles pour la première fois.
Et ouais, donc ils viennent jouer aux échecs et il y a un phénix dans le ciel.
Ouais.
Et ainsi se termine la saga des X-Men de la Fox. 19 ans, 12 films, beaucoup de timeline.
12 films, tu comptes les Deadpool du coup.
Oui. Mm. Beaucoup de timeline.
Trop de timeline, ouais.
Et un seul Wolverine.
Ouais, c'est beau.
C'est vrai.
Ah merde, il y a New Mutants l'année prochaine. Merde, on n'a pas fini, les gars.
Je pense que celui-là, on verra jamais. Si, enfin, on le verra, mais pas à la fin ciné.
Si.
Si,
sur Ulu.
Ah, peut-être Ulu.
Ah, il est annoncé en 2020,
coupé en épisode de 10 minutes.
Parce que là, la date que là, ils ont. C'était la date qui était prévue pour New Mutants à l'origine, donc ils ont dû...
Ah, mais ils ont tout décalé à chaque fois sur
la date. Il a décalé pas mal de fois, New Mutants.
Et voilà, donc on en est à la fin de... En tout cas, jusqu'à New Mutants, mais la fin de la grosse saga X-Men qu'on a commencé quand?
Bah, on l'a commencé en janvier.
Ouais.
6 mois.
Ouais.
Pas mal.
Donc 12 films.
Ouais, écoute, c'était instructif, mais quand même pas fascinant. Hein.
Non.
Franchement...
C'était un... une sorte de montagne russe, tu montes et tu descends super bas, et tu descends.
Même
les bandes sont plus grandes.
Moi, je dirais même les meilleurs, ça reste pas des films qui me parlent plus que ça, quoi.
Ouais, comparé au meilleur Batman par exemple, on va le dire. Bon, voilà, meilleur Captain America, il parle plus.
Je pense que
meilleur Iron Man, il parle plus.
Ouais, je pense.
Voilà, meilleur Spider-Man, il parle plus.
Ouais. Après, voilà, je trouve que les deux premiers de Singer ont quand même un vrai message. Il y a vraiment un truc.
C'est une saga qui a toujours essayé de porter quand même un message un peu politique, ou en tout cas d'avoir un rapport à ça en plus ou moins frontal, surtout dans le 2, quoi. Et
ça fait longtemps qu'ils ont pu faire la métaphore,
perdu,
la grande métaphore. Bah, c'est parce que aussi c'est
éculé.
Comme Deadpool le dit, it's a dated metaphor for civil rights in the 60s. C'est ce qu'il dit, ouais. C'est les mouvements civils américains, ils datent des années 60. Donc,
Mais c'est d'ailleurs, si on peut transitionner vers ce que le MCU pourrait en faire, c'est la question sur laquelle j'étais en train de me poser. Je me dis, comment tu peux introduire ces personnages pour qu'ils aient une résonance à l'heure d'aujourd'hui et que ce soit pertinent, parce que faire le côté...
Ils sont tous gays.
Non, mais les gays, c'est ce qu'il a fait, Singer, au début. Parce qu'au final, c'était plus...
Ouais, mais il n'y a jamais eu un personnage dans les X-Men, à part dans Deadpool.
En miroir, quoi.
Oui, c'est
jamais
ça.
Explicité.
Il y a un personnage dans les comics X-Men qui est gay, je sais.
Ah, peut-être. Je veux dire, en tout cas, dans le film de Singer, le coming out de Billy, par exemple, c'était clairement ça. Voilà.
Oui, mais c'est juste que c'était une époque où on préférait faire ça. En gros, si Singer l'avait fait de nos jours, ce que j'aurais pas forcément aimé, peut-être qu'il l'aurait fait directement.
Ouais, mais ça aurait pas été. Enfin, c'est pas parce que Billy aurait été. Enfin, qu'un personnage aurait été gay que ça aurait été plus puissant.
Non, la métaphore, elle marche aussi en tant que.
Justement, elle marche parce que le blanc du Texas qui est. Voilà, ça. Et le héros du Texas qui est homophobe, il va pas se mettre en...
La vraie métaphore à l'origine, c'était les Afro-Américains contre les Blancs américains. À l'origine, c'était ça. Ensuite, c'est devenu l'homosexualité. Maintenant que l'homosexualité est plus acceptée, etc. Qu'est-ce que ça va devenir?
Surtout que, si on prend le monde du MCU, le truc, c'est que... Je veux dire, quoi? Pour les non, filles, c'est vrai. Oui, bah ouais, j'ai pensé aussi.
Mais tu sais, avec les looks de certains X-Men, en plus, tu pourrais te rapprocher de ça avec des personnages qui paraissent un petit peu, tu sais, extravagants par rapport à tout ce qu'on a dans l'univers.
Mais le problème du MCU, c'est que t'as un monde qui est déjà tellement farfelu. Enfin, je veux dire, t'as des extraterrestres, t'as des super-héros. Enfin, l'étrangeté des mutants, elle est déjà. Enfin, tu vois, elle est pas si étrange que ça, quoi.
La logique, c'est que les mutants auraient dû se pointer juste avant Iron Man, tu vois.
Bah, non, mais voilà.
Et aussi, il y a des trucs qu'on va avoir du mal. Magneto.
Bah c'est ça, tu peux plus utiliser son contexte historique.
Tu peux plus être Schwitz, etc.
Et j'ai réfléchi, mais comment tu fais un Magneto avec ce bagage-là ?
Tu peux pas, tu pourras jamais avoir.
Après, tu peux lui trouver un autre.
Tu pourras jamais avoir l'image du tatouage sur son bras.
Mais après, tu peux toujours lui trouver un autre traumatisme, comme ils ont fait avec Iron Man.
Non, mais c'est un traumatisme qui doit inclure le fait de ségréguer une partie de la population, de l'éliminer, de faire en sorte que d'être la minorité génère le fait d'être pas pris à partie et d'être menacé. Qui
tu
fait que
c'est une victime de la guerre au Rwanda en 91, par exemple, tu vois, un personnage renois qui serait Magneto, tu vois.
Non, mais c'est pas comme ça.
Bah, non, mais tu vois, tu peux réinterpréter de 50 000 façons différentes. C'est tu perds pas l'essence du personnage qui vient d'un.
Non, mais tu vois, j'avais pas pensé. Moi, j'étais plus basé sur un événement du MCU
joué par Morgan Freeman.
Comment moi, je pense que par contre, ce qu'ils peuvent faire, par exemple, c'est qu'imagine que le snap de Thanos, il peut avoir provoqué. Genre des mutations qui viennent par la suite. Enfin, tu vois, on peut dire qu'il y a un événement après ça, peut y avoir des choses qui peuvent être introduites.
Bah déjà, ça a ouvert les portes vers le multivers, apparemment.
Ça, par exemple, moi,
Est-ce que les X-Men existent, si ça se trouve déjà dans le multivers,
c'est la facilité.
Ou alors, est-ce qu'ils ont leur propre multivers et que de temps en temps, ils auront des interactions avec le MCU? Parce que les X-Men fonctionnent vachement mieux quand ils sont de leur côté.
Bah ouais,
parce que c'est les mutants qui sont chassés. Pourquoi les mutants seraient chassés?
Dans un monde où Iron Man
et pas Captain America.
Et après, les gardiens,
des mecs avec des pouvoirs, je veux dire.
Ce qui serait bien, c'est que certains X-Men intègrent les Avengers, mais pas tous, tu vois, genre que comme t'as Wolverine qui fait partie pendant le temps des
Beast,
Avengers.
Beast,
ou Beast, par exemple.
Mais moi, franchement,
des premiers, à faire partie des Avengers.
Le multivers, c'est la flemme. Hein. S'ils partent là-dedans, ça me gave. Hein. Sur le papier, ça me gave. Hein. C'est tellement la solution en mode genre, non mais en fait ça se passait pas là enfin tu vois
c'est un bon moyen d'avoir des stand-alone qui se tiennent bien
ouais mais t'as plus aucune conséquence enfin je veux dire c'est hyper compliqué de t'accrocher à un univers quand tu sais que
de toute façon, ils vont
tu changes
temps,
de verse et d'un coup tout est passé différemment ou on annule tout ou tout est pareil enfin, c'est-à-dire que d'un coup t'as plus aucune règle qui tient
si t'arrives aux comics si t'es dans les comics t'es obligé d'arriver au multivers quoi.
Ouais mais j'avoue moi c'est une barrière sur laquelle
on va voir ce qu'ils vont en faire.
Ouais, après,
pour l'instant, c'est juste un personnage qui s'est retrouvé dans Spider-Man, c'est tout ce qu'on sait.
Oui, non, mais je veux dire, je connais le principe, je vois comment ça évolue, genre de principe.
On verra ce que ça va donner.
C'est que ça peut aller très très vite dans le gros n'importe quoi.
Il y a eu un très très bon film sur les multivers qui est sorti en décembre. Spider-Man.
Tout de Spider-Verse. Ouais, mais.
Éduquer le public, justement.
Ouais, quand tu vois. Comme ça peut être bien fait dans comme ça. Regarde, c'est un film qui est sur les multivers et on est là genre ouais, trop bien. Il y a un Spider Pig et tout.
Ouais, je pense que c'était l'exception qui confirmerait la règle pour moi, mais en effet.
Mais dis-moi un autre film sur le multivers qui t'a déçu.
Là tout de suite, je sais pas. Non, là j'en ai pas en tête, mais je sais
donc
que
donc tu sais pas, t'es juste fermé à l'idée. Alors,
je suis fermé à l'idée parce que c'est une idée qui est trop vaste pour être canalisée efficacement par.
Je trouve que c'est le seul avenir qu'il y a pour le MCU.
Non, mais
les acteurs vieillissent, c'est le seul avenir qu'il y a. Quoi. C'est que chacun après se retrouve dans son propre univers et que de temps en temps il y a un gros événement qui fait que les univers sont rapprochés. Qui pour moi. Ça me fait pas penser à Marvel, ça me fait penser à DC, moi, personnellement, quand je pense à ça. Les histoires de multivers et tout, la Terre 52, les trucs. C'est plus DC pour moi qui le fait bien, quoi.
C'est
Thomas Wayne qui est Batman. c'est pas sa femme qui est Joker aussi, d'ailleurs.
je crois.
Donc, ouais, je trouve que bien fait, si c'est bien fait, avec un mec comme Feige qui gère. Pour l'instant, je dis wait and see.
Surtout qu'on va avoir Spider-Man qui plus ou moins en parle. On ne sait pas si c'est des mythos de mystérieux ou pas, mais il évoque en tout cas le multivers. Donc à voir après comment il sera mis en place chez Marvel. Quoi, sur
ouais, et donc les X-Men, vous les introduisez dans un autre univers et vous les faites venir dans celui-là ou ils sont,
Moi, j'ai toujours voté pour que les X-Men soient dans leur propre univers. J'aime pas du tout l'idée des X-Men dans la MCU. J'aime l'idée des 4 Fantastiques dans la MCU. J'aime l'idée de tous les personnages que tu veux. Namor, si tu veux. Mais je veux pas les X-Men, je trouve qu'ils marchent mieux. Même quand tu lis les comics... que d'un seul coup, t'es là, des personnages des Avengers qui sont acceptés, adorés, Spider-Man qui est accepté, adoré, alors qu'au final, ils ont juste des super pouvoirs. C'est...
Oui, c'est la même. Enfin, pour moi, le principe est le même. Ouais. Enfin, je veux dire, Spider-Man, c'est un mutant.
Mais je veux que là, les X-Men, ce soit les vrais X-Men, avec les tenues, avec les... Ils se battent pour les gens, que Magneto ait sa propre équipe, que ce soit pas... ce qu'ils ont essayé de faire à travers les décennies là, de dire on fait un film par décennie, ça a aucun sens. Ça même au niveau du ton et du truc, tu sais pas pourquoi ça existe. C'est un film par décennie. Pourquoi ils ont fait ça?
De quoi?
Pourquoi ils ont fait les un film par...
Tu veux dire dans la décennie de la chronologie du film? Je sais pas.
Pourquoi ils ont fait choix de faire à partir de First Class de faire un par décennie.
En plus c'est pas tenu, hein. Enfin je veux dire c'est tenu logiquement, mais c'est pas tenu dans l'esprit quoi. Tu vois,
non mais non, il y a aucune raison. C'est même pas où il y a, à part dans Apocalypse où il y a une scène où ils parlent du fait qu'ils vont voir le retour du Jedi. C'est la seule fois où il y a un petit moment.
Ouais, bah le premier c'est First Class qui arrive à peu près à utiliser ce concept-là. Quoi.
Mais et j'aurais préféré qu'il continue dans les années 60 et qu'il fasse un First Class 2 où tu continues dans les années 60.
En plus, t'es dégagé de toutes les problématiques actuelles et tu peux te concentrer sur les problématiques qui existent déjà et les explorer. Enfin, y a plein de...
En plus, t'aurais pu avoir les vrais teams de X-Men. On se dit, allez, on s'en fout de l'âge des personnages et on remet les Cyclopes et compagnie, on les remet dans les années 60.
Sinon je me disais qu'ils pouvaient traiter de la migration, toi avec les multivers pour le coup ça pourrait fonctionner, dans les causes actuelles qui sont intéressantes à signifier par les mutants, le fait de migrer d'un univers à un autre et de débarquer, mais bon après le problème c'est que t'as les mecs, t'as les Asgardiens dans le MCU qui peuvent véhiculer cette thématique là, donc c'est toujours compliqué de rajouter un truc.
Il y a
ça, donc c'est déjà des thématiques, c'est pas nouveau quoi. Après, s'ils veulent tacler un peu des trucs sociaux ou politiques avec les X-Men, tu vois, comment tu vas parler par exemple de la précarité, comment les X-Men peuvent véhiculer ce genre de mal-être actuel, je sais pas, tu vois, j'arrive pas à voir leur résonance sur des problématiques de maintenant par le fait de se dire on a des mutants, donc on a des pouvoirs, donc on est différents, donc ça véhicule ça.
Ça pourrait s'appeler X-Men, on peut plus rien dire.
Ouais, ah putain, là j'y vais. X-Men, on peut plus rien dire, putain.
Mais non. Je pense que, comme je voulais dire tout à l'heure, c'est pour ça qu'ils se donnent vraiment le temps de les traiter, qu'ils disent minimum 5 ans, mais 5 ans avant que ça parte en production. Du coup, ils ont le temps de réfléchir à comment faire ça au mieux pour que ça s'intègre avec le reste. Et je pense qu'avec Kevin Feige, de toute façon...
Mais ça va pas être facile. Franchement,
non, c'est pour ça qu'ils prennent le temps, justement.
Autant les gars fantastiques à introduire, franchement, c'est tout bidon. Tu les envoies en mission spatiale, tu les fais revenir... Je suis temporel à la con.
T'as pas de problème de temporalité.
Non, en faisant ça, tu récupères 3 des meilleurs méchants de tous les temps, au niveau comics. Donc c'est juste les 4 fantastiques qui servent juste à avoir les 4
méchants.
Avoir le catalogue de méchants au final.
Les X-Men, d'un coup, c'est quand même, tu vois, le concept de l'école, le concept d'être exclu, d'avoir des persos comme Wolverine, tu dois trop taper sa backstory.
Je pense qu'on va refaire l'adolescence.
Le MCU, il a jamais trop traité. Donc c'est...
Spider-Man, quand même.
Ouais, un film, et tu vois...
Deux, maintenant.
On verra le deuxième, comment il le traite.
Même Spider-Man, il est dans tous les films où il voit, il crie adolescent, quoi. Tu peux pas faire...
Ouais, mais je trouve que ça a jamais été la thématique...
Homecoming, c'est la thématique du film.
Non, Homecoming, mais je veux dire, le MCU sur 22 films, c'est...
C'est parce qu'il y en a qu'un, de personnage.
Oui, mais ça. L'adolescence, tu as quand même beaucoup d'aspects que tu peux traiter au-delà de ce que Spider-Man a traité.
Là, je pense que les gens, ils vont nous faire une introduction avec Kitty Pryde, un truc dans le genre. Kitty Pryde, c'est le personnage parfait pour aussi entrer dans le truc. C'est un personnage intéressant, drôle.
Après, ils peuvent se servir des séries Disney Plus pour développer certains personnages qui arriveront après dans des films Marvel et ensuite créer un film X-Men. Enfin, ça peut arriver comme ça aussi.
C'est vrai que c'est pas con. Ce serait la meilleure manière.
Parce qu'il va y en avoir de plus en plus des liens entre les séries et les films de toute façon.
Une série centrée sur l'école, un peu en mode Umbrella Academy, tu prends l'école et
X-Men Evolution dans les années 2000, c'était un dessin animé qui passait, France 3, un truc comme
c'est ça.
Et c'était bien. Et c'était sur eux quand ils sont adolescents, ils sont jeunes.
Je trouve que ça marche mieux en série que me dit d'un coup de les intégrer.
Une série X-Men, ce serait parfait. Et tu te la joues à l'anglaise, à la Skins ou à la Misfits, et tu fais un épisode par personnage, tu sais, et après t'as le dernier épisode, c'est tous ensemble, quoi. Tu vois,
peut-être un peu redite avec Umbrella Academy.
Ouais, après, il n'y a pas le côté ils ont vieilli, tu exploites leur adolescence, quoi. Et le côté vraiment école active. Mais oui,
tu pourrais faire des personnages qui ont été un peu mis de côté. Iceman, il a été plus ou moins juste le copain de Rogue. C'était un peu le copain de Rogue et c'est tout.
Cyclope.
Iceman est gay dans les comics. Voilà qui est gay dans les comics. Iceman.
Bobby.
Ouais.
Bah oui.
Dès le début.
Non. Non, ah, oui. Non, non, il est depuis 10-15 ans. Parce que...
Non. Ça arrivait tard.
Ouais. Et ouais, il y a Bobby, il y a Kitty, il y a.
En série, ça marcherait beaucoup mieux.
Ouais.
Bah, ça, on verra. Je pense
que ce serait une porte d'entrée.
Ouais, ce serait
peut-être
pas mal.
Peut-être qu'avec les mutants, ils vont se faire plaisir en série. Ouais. Mais après, bon, le budget, faut voir.
Et après, c'est dans quel univers tu les introduis ? Est-ce que c'est des. C'est toujours le même problème. Parce que tu vas faire une série de se dire c'est X-Men, mais on n'est pas sur le même monde que tout le MCU. Là, ça fait un peu bizarre de te dire bon bah je suis ça et à un moment ils vont tous débarquer ailleurs, bon, tu vois.
Il y a un autre truc quand même.
Après, si on regarde les séries Netflix avec Daredevil de nouveau, quoi.
Ouais, et un truc c'est qu'ils ont jamais eu le droit de dire mutant dans le MCU.
Bah
ils
n'avaient
pas les droits.
Ils ont les deux là.
Donc à faire ça, ça veut dire qu'en gros il n'y a jamais eu de mutant dans la tête des gens.
Bah il y a eu Scarlet Witch et Quicksilver dans l'histoire.
Ils sont secrets, mais ça c'est pas des mutants ça.
Dans le MCU, c'est pas des mutants.
Bah ouais, non, ouais.
Non, c'est pas les fils de, c'est pas les enfants de Magneto, c'est pas, enfin tu vois.
Bah, ils sont pas expliqués en tout cas, mais.
Non, on leur a donné les pouvoirs grâce à la pierre du sceptre. Donc ils ont les pouvoirs grâce à la pierre. D'ailleurs, si tu me demandes comment elle va faire pour garder ses pouvoirs, il n'y a plus de pierre.
Non, elles ont été réduites à l'état d'atome. Elles n'ont pas été complètement détruites. Les pierres.
Ok.
C'est un problème de traduction.
Non, mais j'entends, je lis pas les sous-titres.
Il dit réduit à l'état d'atome.
Ah ouais, je sais, ouais. Mais pour moi, c'est. Bah, d'après on les utilisera plus, quoi. Elles sont à l'état d'atome, donc. Je pense.
J'espère. C'est qu'on les réutilisera plus.
Ouais. Oui, je pense que les pierres, elles sont plus.
Non, ils vont pas refaire ça. Non.
Mais ils ont dit qu'elles n'avaient pas été détruites parce que sinon, ça, vu que ça
fait ouais, pas au cas où. Non, qu'elles soient. Mais c'est un Deus Ex Machina, donc. Donc autant s'en débarrasser pendant quelques temps parce que sinon on se dira toujours ah ils ont les pierres qui peuvent ressusciter les gens. Dès qu'un personnage va mourir on va se dire même ils ont les pierres pour remonter le temps. Non, autant s'en débarrasser, mettre ça de côté. Et... C'est pas
mal. Elles sont pas détruites en tout cas ça ils l'ont dit clairement.
Ouais c'est bien de laisser une porte ouverte quoi pour dans 20 ans 30 ans. Je suis sûr qu'ils ont déjà tout prévu. Thanos le retour dans 20 ans. Mais ça va se vendre s'ils font ça. Pauvre Josh Brolin, tu sais, en déambulateur.
Ouais, tu me diras, lui pourra jouer en déambulateur, mais Thanos pourra marcher. Ça, c'est la beauté du CGI.
C'est ça le truc.
Ouais. Mais ouais, bah, on est... ça va paraître long. Hein. Franchement, on attend les X-Men dans la MCU.
Après, ce sera peut-être une belle redécouverte.
Ouais. Oui, oui, de toute façon.
Avec le temps qui sera passé.
Ah, c'est bien là, de faire une pause.
Ouais, non, mais, ouais, je sais, mais je me dis, en fait, c'est à l'heure actuelle, me dire dans 5 ans, tu repars en arrière, t'étais où dans la MCU il y a 5 ans Au final, il y a beaucoup de films qui sont arrivés, mais c'est pas assez grand chose finalement.
Dans la MCU ?
C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, c'était quoi ? On est en 2009, c'était 2014, c'était Avengers 2.
Et Gardien 2014.
Ah oui, il s'est passé beaucoup de choses. Depuis Avengers 2, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé plus de choses que dans Avengers 2, d'ailleurs.
Oui,
Il y a peut-être eu moins d'action que dans Avengers 2, parce que Avengers 2, il ne s'arrête jamais, mais, ouais. Mais oui.
Ouais. Non, mais maintenant qu'il y a Endgame et Infinity War qui sont sortis, tu te rends compte encore plus de à quel point il suit pas, quoi. Il est éparpillé.
Mmh. Ouais, mais il aurait été. Ils ont beaucoup puisé dedans.
C'est oui, que... oui, il y a eu les jumeaux par exemple. Bah, il y a
jumeaux,
eu
les pierres, les visions, le trauma de Stark qui va servir à Iron Man 3.
Iron Man 3 c'était avant. Ouais.
Mais voilà, bon, et les visions, tout l'arche de Captain finalement qui revient dans Endgame, le côté danser avec Peggy, tout ça, c'est des trucs avec ouais. Qui vont être exploités. C'est un film qui j'avais détesté sur le moment parce qu'il est évidemment serré du tout. Mmh. Et qui finalement, avec le recul, a servi un peu.
Ça s'appelle Age of Ultron et il est là une journée.
Oui, non, mais c'est.
Enfin, l'ère d'Ultron, le mec.
La journée,
c'est pas un nez, c'est pas l'ère, ça. C'est...
Ouais, c'est les 6 heures d'Ultron. Quoi.
Bah oui.
Ouais,
c'est le dimanche matin d'Ultron.
Non, c'est le Covid. Voilà. Ouais.
Mais bon, sinon, ouais, pour en revenir aux X-Men, j'espère juste que ce sera bien. J'espère qu'ils vont pas faire la connerie de prendre des acteurs qui sont bankable, qui commencent à être des gros noms, etc.
Des no-one, hein.
Qui fassent, sauf peut-être pour les deux principaux, les Magneto et.
Enfin, eux, ça va être le plus compliqué à introduire dans l'histoire. Ouais. Franchement, la relation des deux, faut qu'elle
soit.
C'est
pour ça que les changer, vraiment, tu vois, genre un Magneto.
Ouais, mais faut que ce soit complémentaire. Bien sûr. Là, c'est... Parce que.
Fais pas Magneto, tu fais pas Charles, tu le montres pas pendant une bonne majorité du film, sauf à la fin. Et Magneto, tu le mets pas. Magneto, tu le teases pendant le film, et dans le 2, t'as enfin Magneto. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Dans le premier, tu fais le Hellfire Club avec les vrais, là, tu fais avec Emma Frost et tout. Mais le vrai truc Hellfire Club, quoi, pas comme First Class, tu vois. Mais même si j'adore First Class.
Non, mais avec le cerveau et tout ça, quoi.
Ouais, vraiment le truc.
Le club des damnés.
Le club des damnés, voilà. Et enfin, je le vois, je pense comme ça. Le plus difficile, ce sera pas Charles ou Magneto pour moi à caster, ça va être Wolverine.
Moi, à introduire l'univers, pour moi, c'est Magneto le plus difficile.
À introduire, oui, non, oui, oui. Et à cause de la date, à cause
ouais,
du temps.
À cause du... Et même, tu vois, parce qu'il faut vraiment que ce soit béton, quoi, pour que tous les enjeux émotionnels puissent être...
C'est clair. Mais je veux dire, à caster, là, je parlais.
Ah, Wolverine, ouais, ouais, ouais.
Danny DeVito. Ouais.
Non, Wolverine, oui, on verra, mais c'est vrai qu'il n'est pas évident.
C'est pour ça qu'une personne qu'on ne connaît pas, comme ça a été le cas pour Hugh Jackman...
Et c'est exactement ce que je dis.
Après, moi...
Ça serait le plus intelligent.
Marvel, je leur fais quand même plutôt confiance sur ce domaine-là.
Ils sont pas trop ratés,
juste ici. Il a le nez fait, pour le coup, là-dessus.
Ouais, ils ont tendance à prendre des grands noms depuis quelques temps, maintenant. Le dernier qu'ils n'ont pas pris en niveau grand nom, c'était Black Panther et Spider-Man, mais...
Tom Holland, c'était pas vraiment un énorme grand, casting d'acteurs nord-américains, enfin noirs-américains de prestige.
Je trouve que Michael B. Jordan aurait été un plus grand nom que
Chadwick Boseman.
Ouais.
Oui, c'est vrai.
Ouais, il aurait été mieux.
Sûr. Pas sûr. Moi, j'aime bien Chadwick Boseman.
Il le joue très bien, le méchant dans le film.
Il aurait été super, mais c'est vrai que d'avoir Michael B. Jordan en. Mais peut-être
c'est un des meilleurs méchants du MCU, c'est pas pour rien. Quoi. Ouais, je pense qu'il le joue bien. Il joue l'américain, tu vois.
Moi, c'est Black Panther dans son propre film que je trouve un peu insipide.
C'est vrai qu'il est un peu sur le côté. C'est un mec.
Ils l'ont fait moins
droit, et donc il est très.
Ont créé tout un univers.
Ça peut être vu comme embêtant, quoi.
Ouais, genre,
un peu comme les gens voyaient Captain America au début, et avec le temps, ils ont changé. Là, j'espère qu'avec Black Panther, peut-être dans le Black Panther 2, on voit un peu plus de sa personnalité, un peu comme Winter Soldier a permis de le rendre cool, parce qu'il est devenu cool d'un seul coup, Captain America dans Winter Soldier. Genre, il faisait des trucs super badass. Et ouais, j'aimerais bien qu'il fasse un peu ça.
Ah, faut qu'il remette en question son univers, quoi. Parce que. Pas très, Winter Soldier, ça fonctionne parce que d'un coup, le mec est.
Ils l'ont déjà fait dans le premier Black Panther.
Ouais, c'est pas les valeurs pour lesquelles il tient qui s'effondrent, c'est plus le côté juste, il se fait doubler parce que.
Il avait la valeur.
De son père, oui.
Non, mais ses valeurs, c'était de ne pas ouvrir le pays au monde.
Ouais.
Moi, je pense que le faire un team-up avec un autre personnage, ça serait intéressant à Black Panther, dans son deuxième film.
Ah, pour l'avoir là, ils peuvent se faire plaisir, ils peuvent se faire des Doctor Strange.
Avec un Strange ou.
Mais d'accord que c'est toujours Ryan Coogler qui réalise ou.
Non, pas.
Ressemble à M comme ça.
Ah, j'en vois pas.
Mais... Je sais pas si c'est annoncé, mais à mon avis, il est toujours là sur le projet en tant que producteur, si c'est pas réalisateur.
Si, Googler, je crois qu'il est attaché au projet de ce qu'on sait, mais ils ont pas encore annoncé les dates, etc. Donc,
c'est comme ce quote d'Erickson avec.
Je pense qu'il est amoureux du truc.
Ouais, là, ce serait bizarre de l'évincer maintenant.
Et puis, il a donné toute confiance à Marvel avec les résultats du premier Black Panther.
Cela dit, il le file à Jordan Peele, je dis pas non.
Ah, moi non plus.
Pas la même,
Non, c'est pas la même, mais.
Ouais, pas la même du tout. Enfin, moi, Peele, s'il fait pas ce qu'il veut, ça m'intéresse. Alors que Coogler, à la limite, il fait. Enfin, je sens que Coogler, il a une capacité de Yes Man qui me dérange moins que.
Bah, il a fait. Il a ressuscité la saga Rocky, c'est quand même.
Oui, mais je veux dire, il l'a ressuscité.
Non, mais oui, il est dans les franchises, c'est ça que je veux dire.
Oui, voilà, ça, c'est un mec qui
est de cette génération.
À part son premier film, il a fait que des franchises. Hein.
Il a 33 ans, il est pas vieux.
Il est plus jeune que moi. Ouais, il a 30 ans, je crois.
Mais c'est un bon styliste, Coogler, mais dans le fond, c'est pas. Il y a plein de gens, par exemple, qui considèrent que Creed, c'est un Rocky qui a pas compris Rocky, quoi. Pour beaucoup de gens. Sur la forme, moi j'adore Creed, mais sur le fond, il y a beaucoup de choses à redire sur Creed et sur justement le principe de l'héritage Rocky.
Seconde, j'aurais aimé parler jeux vidéo parce qu'il y a une annonce qui risque d'arriver cette nuit pour Marvel. Il y a le film Avengers qui est censé. Le jeu Avengers qui est censé être annoncé à l'E3.
Ah, j'étais sur toutes les consoles.
C'est ça. Qui va être un jeu. Il y a très peu d'infos encore, mais.
Ça va être du MMO, non?
Je crois pas, non, c'est un jeu soit
du Meuporg.
Non, soit du TPS, soit
ça existe plus le Meuporg.
Bon, on va pouvoir faire du truc en coop avec plusieurs personnages. Il y aura un personnage inédit apparemment. Enfin, ça sera annoncé à 3h du matin cette nuit.
Cool, on peut faire sa propre Marissou.
Donc à voir, mais c'est la grosse annonce Marvel là.
Je vais faire quoi, ça va être genre un Battlefield, enfin un
je sais pas,
Battle,
c'est comme, comme Star Wars, un peu d'infos encore. Donc
je suis un peu daté en jeu vidéo, j'ai un peu du mal.
Tu veux dire un FPS?
Non, mais tu sais là, ils ont annoncé un jeu Star Wars il y a deux jours.
Ouais, le Padawan là.
Qui est un peu le même, pour moi ça va être le même principe, c'est ce genre de truc.
Fallen Order.
Ouais, c'est un jeu d'aventure.
Ouais, mais je crois que c'est
une aventure.
Ouais, mais avec une énorme partie online aussi, multijoueur aussi.
Ah ouais, ouais.
Comme sur les Battlefront.
Ouais, ça, comme sur les Battlefront. Ouais, je pense
après il les sépare souvent ces trucs-là. Oui. C'est comme, regarde, il y a Red Dead qui est sorti, il y avait le mode solo, et si t'as envie d'aller sur l'online, t'y vas, je te déconseille. Mais...
Ouais, mais Red Dead c'est déjà plus ancré solo qu'un Battlefront. Tu vois.
Mais il a l'air d'avoir un vrai mode histoire sur le.
T'as quand même une énorme map, tu peux te faire plaisir en online. Bon, j'aime pas ce qu'ils en ont fait, mais c'était mieux dans le premier Red Dead d'ailleurs. Star Wars Battlefront, ils avaient sorti le 2, ils avaient fait un truc en solo dessus, un truc single player. Ça durait 20 minutes le truc. C'était 20 minutes de oh, l'Empire il est tombé, bah maintenant je suis plus de l'Empire. Genre en plus, c'est ça, hein, tu commences, t'es l'Empire, tu te dis ah cool, je suis les méchants pour une fois,
et
genre deux scènes après, t'es genre ah je suis rebelle maintenant. Genre je fais putain, je suis de la gueule.
Mais ce que je voulais dire par rapport à ce jeu vidéo, c'est que c'est le premier vrai pas Avengers dans les jeux vidéo, parce qu'au final on avait quelques jeux, un Iron Man ou un truc comme ça de temps en temps.
On avait Ultimate Alliance là.
Ouais, mais en vrai jeu pour multiplateforme comme ça, il y en a encore jamais eu, ça va être
intéressant. Ouais, ils ont des jeux mobiles, quoi, c'est tout.
Ah, je pense que le Spider-Man ça a inspiré tout le monde.
Bien sûr.
Ouais. Il était super bien, le Spider-Man.
Tu joues encore.
Soit au niveau de l'histoire, au niveau du gameplay. J'aimais pas trop un peu le côté répétitif, bagarre tout le temps, parce que pour débloquer
les
costumes, tu vois, t'es obligé de te bagarrer et de récupérer plein de trucs.
Mais juste le plaisir de se balader dans New York.
C'est vraiment la manière dont ils ont refait Manhattan est super. Hein.
Il y a le Joker qui a été annoncé en R-rated aussi, dans les news de la semaine.
Bien, logique.
Ouais, bonne nouvelle. Ouais. Bon, logique, pas nécessairement, mais en tout cas, rassurant.
Je pense qu'ils sont... Il y a eu tellement de films rated R, super-héros qui sont sortis, qui ont bien marché. Mmh. Ils se disent, allez, on y va quand même. Ouais. C'est Joker. Quoi.
Moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est Warner. Hein, ils avaient arrêté. Ils avaient fait la déclaration après Watchmen en disant, plus jamais nous ferons des rated R blockbuster. Et bah non, c'est surtout pas ça. C'est surtout que suite à Justice League, ils ont dû revoir tout l'univers.
Les Matrix, c'était pas rated R?
Oh, c'était avant Watchmen, surtout.
Ouais, mais ça m'étonne quand même, tu vois, ça a tellement bien marché et tout. Même,
ouais, mais c'est
même
Watchmen,
les suites qui ont pas marché ont marché, tu vois.
C'est Watchmen où vraiment ils se sont dit, ce sera le dernier blockbuster rated R.
Parce que Watchmen, c'est pas accessible à tout le monde, donc c'est un peu logique.
Bah, surtout la bite de Manhattan qui a coûté cher. Non, mais c'est vrai, enfin, c'est vraiment ça qui a joué dans le.
Ils auraient pu juste foutre un truc
de. Bah, c'était la volonté, en tout cas de Snyder, enfin, en tout cas de l'équipe du film, de vraiment coller aux comics et de montrer sa teub.
Ça colle tellement aux comics que ça y colle pas.
Voilà. Ouais, non,
j'ai hâte qu'on parle de Watchmen.
On s'arrête sur des petits trucs. Hein. Et c'est marrant parce que c'est plus ou moins à cause de Snyder et du beat total de Justice League que finalement ils se sont dit, bon, on arrête de faire ce truc-là, on va aller voir ailleurs. Et donc on se retrouve à re-avoir des blockbusters.
Ils ont mis tout leur argent sur ce cheval. Ils ont tout mis sur Snyder il y a longtemps déjà.
Ouais, mais c'est marrant, c'est lui qui est à la cause et qui est au final redevenu la cause du retour des rated R chez Warner.
Ils lui ont même dit, une fois que Nolan s'était barré, ils ont dit, ce sera toi, c'est toi le successeur. Quoi. C'est toi qui vas reprendre le truc.
Bah oui, ouais, c'est sûr. Vous avez choisi la bonne personne.
Ça. Rien d'autre
dans les news maintenant, je crois que c'est tout.
Tout calme là pour le moment.
Ouais, bah on attend Spider-Man pour Marvel, sinon le reste.
Moi j'avoue que je l'attends beaucoup ce film.
Ouais, moi il m'intrigue aussi pas mal. Malgré les.
Toi t'es un peu plus mitigé, je crois, mais.
Il y a rien que dans ce que j'ai vu qui m'a donné envie pour l'instant, mais j'aime le Spider-Man de Tom Holland. J'aime sa petite équipe là, Ned et tout, ils sont tous bons. MJ, j'aime pas qu'elle s'appelle MJ, mais. Allez, je vais passer à côté. Et, ça s'appelle Michelle Jane, hein, c'est ça. Ouais,
et le. Ah oui, parce qu'elle peut pas s'appeler Mary Jane parce que c'est de la drogue.
Non,
c'est pour qu'elle ait un petit décalage avec le perso d'origine.
D'accord.
Oh,
pour
c'est
s'en détacher un peu, mais rester sur
faire,
le même.
Voilà, on va pas faire la rouquine charmeuse qu'on avait avant.
Ouais. Bah, lui, il a été casté en Uncharted, apparemment.
Oui.
Tom Holland.
Mm-hmm. C'est très étrange.
Nathan Gray
ouais.
Bah, c'est. Clairement une origine de franchise quoi. Ah ouais, il est mis que... sur, ouais. sur plusieurs années. Là.
Ouais, c'est étonnant.
À moins qu'il fasse que le premier film, par exemple.
Vu un mec de 30 balais.
Quelqu'un qui prenne le rôle après. Ouais, c'est ouais. l'option qui me paraît crédible.
Parce ouais, que... ou bien tu te dis, je vais avoir ce mec-là pendant 15 ans. Quoi.
Ouais, c'est aussi.
À coup d'un film tous les 4 ans.
Il va épater beaucoup de gens au niveau des.
Bah, c'est ça, des cascades.
Des cascades, des trucs comme ça.
Mais même dans The Lost City of Z, il était pas ridicule dans la jungle. Donc moi, n'attendrai qu'en.
Là, il était à Disney déguisé en Spider-Man. Et putain, il faisait des saltos, il faisait des trucs.
Ah, mais il est incroyable, hein.
Malade, ce mec. Là, il pourrait se casser, les jambes, mais sa carrière, il serait bien dans la merde pendant quelques mois, là, tu vois. Mais non, il le fait quand même. Ouais. J'aime bien ce qu'il y a. Bon. On se retrouve. Quand on se retrouve, je sais
pour
pas
pour les 4 Fantastiques derniers, là.
On se retrouve pour les 4 Fantastiques oui. derniers, là.
Ouais. Et t'avais pas une annonce pour essayer de trouver du monde, toi? pour me remplacer pardon.
Oui, oui, mais c'est même pas pour te remplacer, c'est pour ajouter une quatrième personne dans le podcast aussi. Nous recherchons une co-host, donc une co-animatrice, parce que Critique Masquée ne sera pas là pendant une bonne partie, mais c'est pas juste pour ça, c'est surtout que ça fait quand même pas mal de temps que...
Trois hommes blancs qui parlent de féminisme.
Ouais. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est là.
C'est quand même bien d'avoir aussi...
De pas avoir un avis féminin sur les questions. Par exemple, ça s'est surtout vu quand on a fait Captain Marvel, ou quand on a parlé de Captain Marvel dans Endgame. Ça aurait été pas plus mal d'avoir quelqu'un pour nous donner un point de vue différent. Et c'est toujours intéressant d'avoir tous les points de vue. Donc, si vous avez un petit esprit critique, si vous êtes drôle, si vous êtes intelligent...
Sur Paris.
Sur Paris, ouais. Sur Paris.
Ça aide.
Voilà, contactez-nous sur Twitter, MCUPod.
Et nous, on a participé à un podcast tous les deux, devrait sortir dans pas longtemps.
Hâte d'écouter ça.
Ouais. Donc, si jamais, ça s'appelle Plaisir Coupable. Vous trouvez ça sur SoundCloud et sur Twitter à P-Zir Coupable, je crois. Bref.
P Coupable,
voilà. Et donc, il y a Sofiane et moi qui ont participé. C'est une émission de divertissement musical.
Rien à voir avec Marvel.
Non, rien à voir avec Marvel, mais voilà, si vous aimez nous écouter parler, bah là vous allez nous entendre chanter.
C'est vrai, ça.
C'était un bon moment.
Oui.
Ouais, ouais. C'est bien, on s'est donné. Hein.
Surtout toi. Toi,
moi j'étais à solo et tout. Moi j'étais à fond.
Il a fait sa voix de beau gosse comme ça.
Beau gosse R&B.
Ouais, salut, je suis au piano.
Voilà.
Je vais vous voler vos cœurs.
Putain, je peux te dire, j'ai mis tout ce que j'avais dans ce chant final.
T'as des vidéos en ce moment?
Ouais, j'en ai une grosse qui sort dès que c'est terminé là. J'en ai une qui marche bien sur la super vitesse là, j'ai enchaîné tous les. Ça m'a permis de parler un peu de Quicksilver justement, où j'analyse
qui,
un peu.
Qui lui techniquement il ralentit le temps.
C'est ce que j'explique. Ouais. Il ralentit le temps là où par exemple un personnage comme dans les Indestructibles court juste vite.
Ou ce même, j'ai l'impression que le Quicksilver du MCU court plus vite. Mais il y a des moments où il est ralenti.
Il y en a vraiment pas beaucoup. J'avais vérifié. En fait,
il voit le marteau passer.
Il y a ça, ouais. Il y a ce seul moment.
Il y a quand même un moment où il sort toutes les balles d'un flingue et il les pose sur un truc et tout ça en un quart de seconde. Et alors que pendant tout le reste du film, t'as pas l'impression qu'il va aussi vite.
J'ai oublié cette séquence.
Quand il est avec Ulysses Claw.
En fait, sous ça, j'avais oublié cette séquence parce que c'est la même qu'avec le marteau. On me l'a fait notifier dans les commentaires, mais par exemple, à la fin, quand il se prend une balle, il n'est pas à la vitesse de la balle. Enfin, tu vois, genre, il se prend une balle dans le bras avant de se faire tuer. Il va pas à la même vitesse, genre, il n'est pas en avance sur la balle, par exemple. Ouais. Il se fait couper, il se ralentit lui également. Et après, il reprend c'est très bizarre. Donc, son traitement n'est pas terrible. Mais bon, voilà, c'est un peu paresseux. C'est un peu paresseux la manière dont ils le traitent. Là où pour le coup, c'est vrai que Singer, au moins, et Quicksilver, il s'est vraiment éclaté, il a vraiment trouvé des concepts.
En plus, ils l'ont habillé, genre, ils lui ont foutu un jogging décathlon, et allez, vas-y, c'est parti, quoi.
Donc voilà. Donc, j'ai ça, et là, j'ai une vidéo sur les personnages intelligents au cinéma qui arrive bientôt.
Personnages intelligents.
Comment écrire et mettre en scène un personnage intelligent? Plus intelligent que la normale.
T'as des exemples?
Bah, par exemple, est-ce qu'il faut être un génie pour écrire un mec comme Goodwill Hunting? Ou pas? Tu vois?
Non.
Bah voilà. J'explique comment ils font.
Il faut avoir des gens que tu peux appeler et dire hey, les maths, là, tu peux les faire.
Non, parce que c'est marrant, il y a plein de cas de figure justement sur comment en fait comment faire pour quelles astuces d'écriture et de mise en scène tu peux trouver pour simuler une intelligence artificielle, enfin un mec intelligent au cinéma. Et Will Hunting est un des nombreux exemples que je vais évoquer. Mais il y a une technique que j'aime beaucoup.
Ouais, il y a aussi celui avec Russell Crowe, non?
Ouais, Nash, ouais. Bah ça c'est intéressant Nash. Parce qu'ils ont une démonstration visuelle de comment il arrive à avoir ce moment où il théorise son équilibre. Et donc, pour le coup, c'est plutôt une séquence qui, au moins, il y a un effort de mise en scène de te visualiser la tête du mec. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau à ce moment-là?
J'essaie de réfléchir.
Ah, il y en a plein.
Et Hannibal Lecter.
Hannibal Lecter, bien sûr. Hannibal Lecter, ils utilisent deux techniques. Enfin, en fait, la première grosse technique, c'est ce que j'appelle le Sherlock Holmes, où c'est qu'en fait, l'auteur, il travaille à l'envers, en fait. Ouais. Il peint quelque chose de très beau, il le coupe en plein de morceaux. Enfin, ça, c'est une métaphore, hein, et il éparpille partout. Et quand Sherlock Holmes arrive dans une pièce, il regarde tous les trucs éparpillés, il arrive à faire, hey, ça ressemble à ça quand c'est construit. Bah oui, mais en fait, parce que l'auteur, il a déjà tout. Bah, tu vois, genre, il rentre dans une pièce, il voit un mec, il dit, il y a de la boue sur ses chaussures, tu es dans la forêt. Alors qu'en fait, non, il a d'abord écrit le mec qui est dans la forêt, et après, tu vois, c'est l'auteur qui est en avance sur le personnage et qui permet de donner au personnage ce côté super intelligent.
Rain Man, ça compte,
ouais, pour la scène des cure-dents, mais visuellement, il se passe rien. Par contre, elle a été parodiée de manière assez rigolote dans Hangover, enfin dans Very Bad Trip, où ils font exactement la même chose, sauf que là, ils te mettent des espèces de calculs qui apparaissent à l'écran. Qui a un peu le même principe.
Non, premier.
Voilà. Donc, non, c'est une grosse analyse. Je pense qu'elle va faire quasi 50 minutes. Pour le coup, c'est vraiment, j'ai bossé. J'ai vraiment fait un gros truc.
J'ai jamais accroché au film sur les mecs intelligents.
Bah, il y a plein de trucs. Moi, j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est le moment où j'ai compris. Il y a toute une séquence sur justement Endgame. Il y a une partie que j'appelle on comprend parce qu'on comprend pas. Et c'est tous les mecs où en fait ils parlent d'un truc
qui explique un truc,
ouais, où en fait tu comprends, enfin l'important de la séquence c'est pas que tu comprennes ce qu'il dit, c'est que tu comprennes que lui a compris. Tu vois,
oui, c'est clair.
Et donc il y en a plein, par exemple
tu comprends qu'ils sont d'accord entre eux,
voilà, tu comprends que le mec est plus intelligent parce qu'il a trouvé la solution. Il y a ça dans le Social Network, quand Moïse lève de cours et t'as son prof qui lui dit genre, alors regardez comment les mecs désistent déjà, et l'autre il se retourne, il lui donne la bonne réponse. Tu sais pas de quoi il parle, mais tu comprends qu'il est plus intelligent que son prof, hein, voilà. Et en fait, j'ai réfléchi à vraiment à Endgame. En fait, le problème d'Endgame, sur le moment où Tony Stark résout l'équation du futur, là, c'est qu'en fait, ils utilisent pas cette séquence pour dire, parce qu'il est intelligent, il est capable de trouver. Enfin, parce que, en fait, cette séquence-là permet pas à se dire, ah putain, il est intelligent, Tony Stark. Ça marche dans l'autre sens. Cette séquence-là, c'est parce que t'es supposé te dire que Tony Stark est intelligent, qu'il est capable de trouver un truc, une théorie à la con pour voyager dans le temps, tu vois. Et donc ils utilisent ça à l'envers, et ce qui fait que si t'es pas une vraie attache avec le perso que t'as suivi depuis le début, où tu t'es dit qu'il était intelligent parce qu'il construisait des armures, qu'il y a une autre technique
Ils font beaucoup de trucs dans les trois premiers où il fait ses moments d'intelligence.
Oui, oui.
Bah majoritairement c'est la technique de l'inventeur.
Hulk, avec Bruce Banner dans le 2,
ils sont
en train de faire des trucs de science et des trucs comme ça.
Ah, oui. Bah ça c'est là pour dire c'est des mecs intelligents,
mais ouais, c'est science bellies, parce que les gens dans le premier ils avaient adoré le fait qu'ils étaient potes comme ça, et bah ils ont voulu le faire encore plus.
Bah après Tony, et donc cette séquence dans Endgame pour moi elle fonctionne pas, parce que ça marche, c'est que tu prouves qu'un personnage est intelligent grâce à cette technique, mais tu utilises pas ce qu'il dit pour faire avancer l'histoire, en fait ça marche dans l'autre sens. Et l'autre problème c'est la technique de l'inventeur aussi. C'est le fait que Tony Stark il est quand même considéré comme étant intelligent parce qu'il est capable de créer des choses qui le font être intelligent, tu vois. Ça, c'est une autre astuce de mise en scène et d'écriture.
Je vais avoir 3 heures de montage. Donc
désolé,
je crois qu'on va y aller.
Je connais.
Toi, t'as rien de spécial?
Non, moi,
ça va. Si vous avez du travail pour Maxime, faites-lui signe. Et moi, j'ai toujours Linkspinning, et on va parler des Razorhead dans le prochain épisode, donc ça va être un épisode super intéressant, vous voulez voir deux mecs en train de parler pendant 3 heures d'un film qu'ils comprennent pas. À la prochaine pour Fantastic Four, celui qui est très 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 nul. Salut.
Ciao. Previously on X-Men.